Mimi.
C'est bas.
Chante.
Très bien.
3, 2.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir pour ce grand retour au studio. La clean équipe est au complet. À commencer par Camille, désolée parce que Chouchou était là la dernière fois.
Coucou.
Ah, elle est vivante, ça y est.
Je suis revenue de ma campagne.
Ah, magnifique. Et on vit avec tout autant de membres de vivabilité.
Oui, tout à fait. Oui, au top. Voilà.
Ça va. Bon, cool, ça fait plaisir.
Oui, ça va très bien.
Et ce cher Ichouchou.
Coucou.
Comment vas-tu?
Très bien. Et toi?
Donc très très direct aujourd'hui, ouais. On n'a pas le temps. Mais bah, écoute, ça va plutôt bien. Et puis bah, c'est la première fois en 4 ans que vous me demandez comment ça va. Donc je... On l'a fait l'automne dernier, alors ça va.
Mais ça fait que 3 ans qu'on est dans le podcast game.
Ouais, bah une fois en 3 ans, c'est pas beaucoup.
Bah non, c'est pas une fois. Non.
Bon,
non, objection,
tout
mon honneur.
Tout le temps.
Mon honneur. Bon, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de me retrouver avec vous.
Bah, qu'on se retrouve ensemble,
que nous nous retrouvions.
Ce petit studio que j'avais... Et tu sais,
sur Slack, quand on avait dit saison 4, épisode 4 oui. Sur le channel, j'avais l'impression que les derniers messages qui étaient sur ce channel-là
ouais.
Datent d'il y a 4 ans.
Ah ouais, bah pas loin. C'est... Pas loin. Ça faisait 2 mois,
mais c'était
énorme. Pas loin.
C'est énorme.
Bah, j'avoue,
ouais,
franchement...
Bah, surtout que... Alors oui, on raconte un petit peu notre vie dans cet épisode. Voilà. Mais ouais, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et à part les périodes de pause intersaison, on fait vraiment enregistrant toutes les 2 semaines. Donc ça rythme notre quotidien depuis 3 ans. Quoi. Donc c'est vrai que pendant 2 mois, ne pas avoir d'enregistrement en commun, en tout cas, bah, ça faisait bizarre. Voilà.
Puis c'était un exercice particulier de...
Pas se voir.
Oui, de pas se voir, hein, mais d'enregistrer tout seul, je trouve.
C'est très difficile.
Oui, c'est totalement différent. Très et chaud. Je tire mon chapeau à ces gens qui font des trucs où ils sont tout seuls.
Oui.
Parce que c'est clairement
Bravo.
Pas simple. Oui.
Et surtout qu'ils doivent avoir l'air enjoué, dynamique et tout. Et
totalement, alors que t'es face à ton papier peint moche.
Et tu fais une blague et t'entends... Et voilà, rien.
Non, par contre, moi, le truc relou que j'ai eu, c'est que j'étais vraiment à la campagne et il y avait des canards d'un côté de la maison et des vaches de l'autre côté. Et donc, il y avait des mouches. Parce que j'étais dans le no man's land des animaux. Et donc, c'était vraiment la folie des mouches. Et le micro que j'avais là-bas pour m'enregistrer, c'était vraiment un micro qui capte vraiment le bruit d'une mouche à l'autre bout de la maison.
Ouais,
j'ai fait des chasses aux mouches.
Tu veux dire qu'on aurait entendu une mouche voler?
Oui, exactement. Bah, là, c'était vraiment le cas. Et du coup, je courais après les mouches avec ma tapette avant chaque enregistrement. Voilà, c'était la petite anecdote que je tenais à vous raconter. C'est ce qui a été un petit peu difficile dans ma vie de confinement.
Ouais, vous voyez que Camille va mieux. qu'elle a fait un petit peu de sport pendant le confinement, donc c'était bien. Très cool. Bon, il me semble, on a déjà pas mal blablaté dans le précédent épisode et dans le dernier live,
ouais.
Qui est encore en ligne sur Instagram, en fait.
C'est vrai.
Ce qu'on va dire, on vous a dit qu'il serait là que 24 heures, mais non, on l'a laissé. Donc, si vous voulez le regarder, il y est toujours. Donc, si vous avez des questions, bah, vous pouvez y aller, nous les poser. Et puis, bah, nous, il me semble qu'on va passer au menu.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Ah ah, bah, pas des pizzas parce que t'en as pas fait.
Ah, je suis désolé, j'ai un travail.
Tu nous as habitués. Alors, bah, on va...
J'en ai fait une fois, quoi. Tu nous as habitués.
Non, deux fois. Et puis, oui, mais nous aussi, on a travaillé. Mais alors, donc, on disait, pardon. Allez, on se reprend. Donc, j'allais commencer à lire mon sujet. Donc, personnellement, je vais commencer et je vais vous parler des robots.
Voilà.
Cool.
Qu'est-ce que quoi, les robots? Qu'est-ce robota?
Super. Voilà. Putain, il va être long, cet épisode, voilà. Si on parle tous comme ça.
Non, et après, il me semble que ça sera Camille.
Yes.
Tout à fait. Et moi, pour accueillir ces beaux jours, le retour de l'été, etc., on va parler chaleur et on va parler de l'enfer chrétien.
Ah, j'ai cru que c'était
sympa, léger, funny, on adore.
Trop bien.
Et tout à l'heure, tu as dit on est l'équipe au complet. C'est parce que...
Mais parce qu'on a quand même notre super reporter.
Qui voilà. Sera juste après Camille.
Oui.
Perso, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas encore de quoi il nous aura...
De quoi ça s'agit.
Cuisiner.
Mais ouais, il nous a encore fait un petit reportage dont il a le secret.
Mm.
Ouais, à l'autre bout du monde, très certainement, mais en confinement tout de même, ce qui a beaucoup de logique. Et après, tu sauras le clou final sur la cerise du gâteau.
Best for last. Moi, je vais raconter l'histoire de quelqu'un.
Wow, c'est bien. C'est toujours précis.
Ma voisine, Janine.
Peut-être comme moi, vous ne connaissez ce personnage que de nom. Enfin, bon, avant, je connaissais que de nom. Peut-être grâce à Shep Khaled.
Attends, comment t'appelles que de nom? Parce que moi, je sais de qui tu vas parler. Oui. Et clairement, je ne les connais pas personnellement. Tu vois,
non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas c'est qui, quoi.
Ah oui, ok.
Voilà. Ah putain, je viens de comprendre ta référence à Shep Khaled.
Mais voilà,
j'ai fait défiler toute la chanson dans ma tête. Et j'étais là, mais à quel
pourtant,
moment il en parle?
C'est la quatrième phrase, je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais je vais vous raconter donc cette histoire d'une reine mystérieuse, belle et sage, connue sous le nom de
Aïcha,
reine de Saba.
Reine de Saba.
Et petit spoil, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que Khaled parle de reine de Saba.
Bah parce qu'elle est, tu
parce qu'elle était réputée pour
machin,
être archibelle,
et...
je crois.
Ouais,
la
mais
reine de Saba.
Bah c'est le genre de compliment qu'on peut faire à personne du sexe désiré.
Ouais, mais sans un regard, reine de Saba.
Voilà, on va
mais
peut-être
non,
pas
mais
faire
l'analyse. Telle une reine de Saba.
Okay.
Tu vois, t'es collé comme la reine de Saba.
On va pas faire l'analyse de Khaled tout de suite. Je vous propose de partir sur les robots.
Oui.
Terminator, programmé pour s'infiltrer et tuer.
Je suis Tomat.
Moitié homme, moitié machine. Voilà, je m'établisse immédiatement à portrait robot.
C'est plus une machine qu'un homme maintenant.
Je tiens à confesser quelque chose maintenant pour relever tout le doute. Est-ce que vous avez noté le mot qui est à peu près au milieu du...
Pas du tout.
Il y a un mec qui dit je suis...
Tomate.
Ouais, en fait, parce que j'ai pas trouvé automate, du coup j'ai gardé tomate.
Bah oui, parce que moi je cherchais encore le truc, j'étais là, je suis tomate.
Tu sais, je vais chercher des extras avec automate, je fais, bon, tomate, ça fera l'affaire.
Non, bah pas trop.
Voilà.
Mais c'était rigolo.
Voilà. Sur ce, bon alors, commençons comme d'habitude, reprenons les bonnes habitudes. C'est quoi pour vous un robot? Si je vous demande de me décrire un robot, ça donnerait quoi?
C'est en métal.
Ok.
Ça peut rouiller.
Ça, c'est plus le métal que les robots, mais très
c'est
bien.
C'est automatisé.
Il y a de ça.
Et voilà.
Il chouchou.
Tout ce que Camille a dit, et puis c'est cool.
Ça fait la cuisine.
Ok, oui. Ah, intéressant. Point intéressant.
En gros, mécanique, quoi. Oui, mécanique et électronique.
Ah, très bien, parfait, on a des bons éléments. Donc, je ne les commande pas tout de suite, vous verrez qu'on va y venir petit à petit. Déjà, l'origine du mot robot. Moi, j'étais très content d'apprendre cette origine. En fait, première apparition officielle, donc c'est dans une œuvre de Karel Čapek, c'est un auteur tchèque du début du XXe siècle. En fait, pour la petite précision, il se trouve que c'est son frère qui a trouvé le terme. Donc, première erreur que j'ai trouvée de ma vie dans le Larousse. Boum, allez, bra, qu'est-ce que vous allez faire?
Voilà. Pas grand-chose.
Donc, en 1920, il publie une pièce dont le nom est, on va dire, résumé par... R-U-R, je vais dire suivant les accents, suivant les langues, mais donc c'est Rossumovi Universal... Pardon, c'est pas facile. Donc Rossumovi Universalni Roboti. Donc ça peut être traduit par Rossum's Universal Robots, donc les robots universels de Rossum.
Tu parles très mal le tchèque.
Ouais,
c'est pas fait pour toi. Hein.
Ben, en fait, il y a des enchaînements de lettres que...
Qui est très douteux.
Voilà. Et puis A avec accent, je fais bon, on va dire que ça se dit A. Je ne sais pas. Donc les robots universels de Rossum. Et donc c'est en fait une pièce qui, en 1920, à partir de 1920, a connu quand même un certain succès. Parce que donc, elle a été jouée à Prague dès 1921 et tout de suite après à New York en 1922. Donc pour un auteur tchèque, passer de Prague à New York en un an, c'est quand même plutôt fat.
C'est stylé, ouais.
Et après, elle a même été jouée à Paris en 1924, donc elle a dû rayonner dans le monde entier. Le terme donc, robotie aurait été inventé par son frère à partir du tchèque robota, qui peut être traduit par travail corvée. Donc voilà, Robota existe en tchèque. Et dans cette pièce, en fait, il y a. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une usine qui construit des robots. Et c'est en fait des sortes d'ouvriers anthropomorphes, donc qui ont une forme humaine, et qui sont petit à petit dotés d'intelligence et de sensibilité, pardon. Et dans cette pièce, en fait, les robots sont faits de chair et d'os. Donc c'est pas du tout mécanique. Et déjà, pour commencer, je trouvais ça. petite mise à jour. C'est bien. Nos recommandations, restez toujours à jour, c'est important. Et porter un condom et tout ça. Donc, perso, j'ai quand même été trouvé ça intéressant de voir qu'il y a quand même une pièce qui, début 20e, avait autant de succès en étant une pièce de science-fiction. C'est quand même pas tous les jours. Et déjà, à l'époque, ça devait être rare. Donc, ça vaut le coup d'être noté, oui.
Mais après, si je peux me permettre, c'est vachement dans l'époque. Parce qu'on n'est pas dans l'époque, beaucoup, du travail à la chaîne, etc., où on pense à remplacer les hommes par des machines pour faire certaines parties de travail à la chaîne.
Ah oui, alors c'est...
Et du coup, ça va super bien avec l'avenir proche qu'on imagine de l'époque.
Oui, tout à fait. Et en plus, globalement, on appelait ça de la science-fiction à l'époque, mais parce que ça ne pouvait être que de la science-fiction, parce que ça n'existait pas encore dans la réalité. invité.
Tu peux me rappeler, c'était vers quand?
1920,
c'est ça? Ouais.
Oui, ok.
Donc c'est quand même assez récent, mine de rien. Et on verra par la suite, parce que oui, avant ça, il y avait des choses qui peuvent être comprises comme des robots, mais on les appelait pas encore comme ça. Donc la définition du mot robot, en fait, elle est plutôt floue, et il y a beaucoup de termes connexes qu'on va voir petit à petit. Mais voilà, en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord pour définir ce qu'est un robot, et c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et en plus, il y a une définition qui va changer dans le temps, en fait. Et donc voilà, au lieu de vous faire tout un historique de c'est quoi les robots et qu'est-ce qui s'est passé, je vais passer plutôt vite sur cet historique et plutôt m'attarder sur comment on va déflouer un petit peu, déflounouner ce terme de robot. Déjà, si on regarde dans le Larousse, alors déjà oui, du tchèque robota, travail forcé, mot créé en 1920 par Kačapek, son frère. Voilà, boum. Mais bon, effectivement, c'est Kačapek qui l'a publié. Ok. Donc les définitions, on en voit plusieurs. Dans les œuvres de science-fiction, machine a l'aspect humain capable de se mouvoir, d'exécuter des opérations, de parler.
Eh ben oui, mais non.
Ah bah, si.
À l'aspect humain, excuse-moi, mais un robot de cuisine.
Nous y viendrons.
Ok, très bien.
Nous y viendrons. Appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Ok. Personne qui agit de façon automatique. Alors là, ils ont balancé des mots, ils se sont dit bourreau, ça va le faire. En apposition. Alors déjà. La position des mains. Donc, en apposition, indique un appareil à commande automatique ou désigner quelqu'un dont l'automatisme a quelque chose d'humain. Alors, on commence à tourner un petit peu en rond déjà. Mm-hmm. Et sinon, c'est un peu la fin de la fin là. Bloc moteur électrique combinable avec divers accessoires permettant d'effectuer différentes opérations culinaires. On dit aussi robot ménager.
En gros, c'est un truc qui fait d'autres trucs qui font à bouffer.
Ouais, mais je trouve que la dernière, c'est vraiment pas la plus claire. Genre, bloc moteur électrique doté de... Ouais, très bien. Donc, perso, si on peut noter une petite synthèse, ça, c'est que le Larousse. Et si on regarde d'autres trucs, genre le petit Robert, enfin, je sais pas pourquoi c'est le petit, d'ailleurs, mais dans le Robert, il y a tout autant de définitions qui sont à la fois soit trop floues, soit trop précises. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, comme je disais, qu'il y en a plusieurs des définitions. On sait pas trop quoi en foutre. Donc, en fait, soit une machine qui agit comme un humain, soit un humain qui va agir comme une machine, donc un automate. C'est plutôt vaste, mais bon, entre un truc inerte et qui s'approche d'un truc vivant, ou un truc vivant qui s'approche d'un truc inerte, il y a tout un monde, mais on va essayer de clarifier un petit peu tout ça et de trouver un petit peu de subtilité là-dedans. Mais on note qu'il y a quand même déjà une idée de tâche à réaliser et de répétition. Ça, au moins, ça tient. Si on regarde un petit peu, donc dans les débuts, émergence du terme en 1920, je prends vraiment quelques étapes choisies, ça se veut pas du tout exhaustif, mais c'est moins pour donner un petit paysage. Donc 1920, émergence du terme. En 1950, on a une œuvre que j'aime beaucoup qui va être mise en avant. Et en fait, ça va être la révélation des trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Je sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Oh là là, mon Dieu.
Faut tout vous apprendre. Hein.
Voilà, donc les lois de la robotique, c'est un truc qui est un peu, on va dire, emblématique de la robotique. Donc Isaac Asimov, c'est un auteur de science-fiction également, et il a publié en 1950 pour la première fois un recueil de nouvelles, dont les premières étaient publiées en 1942. Et ce recueil de nouvelles, en fait, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le cycle des robots. En tout cas, en français, c'est appelé Les Robots, et donc le cycle des robots. Donc il y a 6 livres, il me semble. Je vous ferai quelques recos à la fin, mais je vous conseille ça, c'est excellent, c'est extrêmement bien écrit, c'est très digeste et c'est très très bien. Et en fait, au tout début de cette suite de bouquins, il décrit les trois lois de la robotique, donc les trois lois auxquelles tout robot doit se conformer. Donc, première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un humain soit exposé en danger. Donc, quoi qu'il se passe, un robot ne peut pas faire de mal à un humain, et s'il voit qu'un humain est en danger, il doit le protéger.
D'accord, ok.
Qu'il le veuille ou non, voilà. C'est parce que dans oui.
Ouais, non, mais.
Ça, c'est de la science-fiction, ça, pour le coup.
Non, parce que je pensais au modèle Tesla, tu sais, les voitures. Qui conduisent tout seul. Il y a eu un débat de est-ce que le robot doit choisir la vie du mec qui traverse
ou... Très bon point, et c'est là que vraiment les bouquins de Asimov sont ouf, parce que c'est beaucoup plus limite psychologique et sociologique que vraiment technique. Et ouais, t'as des cas comme ça où ils disent putain, il s'est passé tel truc, en vrai le robot, pourquoi il agit comme ça? Parce qu'il n'est pas censé blesser les humains. Mais s'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, selon lui, un robot, il est censé suivre cette première règle. Deuxième règle, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Donc le robot, il n'est pas censé buter des gens, et ceci dit, il est censé faire tous les ordres que lui donnent les humains, quoi. Si l'humain, il lui dit « fais le poirier », il fait le poirier, bim.
Ça, c'est un robot utile.
Voilà. Mais oui, ça t'évite de faire le poirier toi-même. Et voilà.
Je vais faire le sport à ma place.
Et troisième et dernière loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.
Attends, j'ai pas entendu.
Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un robot, il a le droit d'agir.
Il peut pas se sauver lui-même.
Si, justement, il doit le faire.
Mais il peut pas le faire si la vie d'un humain est en jeu.
Alors, c'est plutôt l'inverse, en fait. Si, il doit, si pour sauver la vie d'un humain, il doit se mettre en danger, lui, et ben, la première loi prévaudra sur ça.
D'accord, ok.
Donc, la priorité, c'est sauver les humains, après obéir aux ordres, et après se protéger.
Ok.
Voilà, donc ça, c'est dans la fiction, mais dans la réalité. Donc, revenons au XXe siècle. Premier robot ménager, si on parlait, est-ce que vous avez une idée de quand ou quoi?
Déjà, je dirais putain, mais... États-Unis.
Ouais, mais c'est tellement... États-Unis ou pays nordiques? Non. Suède, machin et tout, moi j'aurais bien...
Mais c'est un cocorico ! Parce que premier modèle professionnel inventé au début des années 60 par Pierre Verdun.
Ouais, j'allais dire, c'est clairement
c'est
l'époque...
plutôt français.
Moi, j'aurais dit années 50, mais tu sais, vraiment l'époque, l'âge d'or de la ménagère qui reste à la maison. Et qui
ça,
fait,
c'est professionnel pour l'instant. Et le premier modèle grand public en 1971 par une entreprise...
Non, si tard que ça ?
Qui s'appelle Magimix.
Ah,
qui existe
ouais,
toujours.
Oui, bien sûr.
Et ouais. Donc voilà, je trouvais ça assez ouf.
D'accord. Et c'était quoi comme appareil ?
Avoir un coupe-coupe à légumes, quoi. En gros, lui, il bossait dans la cuisine et il s'est rendu compte que putain, on passe vachement de temps à couper les légumes quand même. Et donc voilà, il commence par un modèle.
Excuse-moi, mais
pro,
les femmes n'avaient que ça à faire à l'époque. Couper les légumes.
C'est vrai. Mais tu vois, là, tu viens de me tendre une énorme perche que je vais laisser de côté. Et je vais passer au premier robot industriel. Donc années 60 également. Et alors, je dis, la légende veut que, parce que. Toute entreprise crée sa légende comme elle veut et aujourd'hui, bah, c'est un peu difficile parce que c'est beaucoup de travail de recherche en fait pour créer un robot. Donc la légende veut que ce soit un robot nommé Unimate utilisé par General Motors pour l'assemblage des voitures, qui soit donc le premier robot industriel dans les années 60. Mais comme je vous dis, en vrai, bah, c'est pas dit qu'il y ait un autre petit artisan qui ait créé un robot fin des années 50. Et en fait, bon, je sais pas parce que General Motors a beaucoup plus de poids historique. Mais bon, je trouvais ça plutôt chouette. On peut aussi regarder premier ordinateur, parce qu'au final, ça va être des robots qui vont automatiser des choses, obéir à nos ordres, etc. Mais,
ouais, mais du coup, l'ordi, c'est plus de la programmation que de la robotisation, non ?
Bah, quelle différence ? C'est un truc qui va obéir à tes ordres. Et,
c'est pas faux.
Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, on dit bien que c'est des bots.
C'est vrai.
Bots pour robot.
Oui.
Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Je me suis dit, bon, on pourrait regarder le premier ordinateur, la première chaussette automatisée. Bon, bref, en gros, on n'en finira pas. La question, c'est en réalité, qu'est-ce qu'on entend par robot ? Donc, je me suis dit qu'on allait clarifier un peu tout ça et clarifier par des exemples. Je me suis dit que ce serait plus simple. Donc, déjà, on va partir du plus, on va dire, un peu plus inerte, les machines. Donc, machine, c'est quoi ? Bon, bah, par exemple, une machine à écrire. C'est une machine, c'est logique, il n'y a pas d'automatisation. Action, réaction, on appuie sur un bouton, il se passe un truc. On appuie deux fois sur le bouton, il se passe deux fois le truc. Jusque-là, ça va. Pas de réaction sans intervention de l'humain. Genre, si tu mets du papier dans ta machine à écrire et que tu fais « Allez, go !»
Passe pas grand-chose.
Ouais, ouais, ça va pas se passer grand-chose. Donc ça, c'est une machine.
Je vois que tu te renseignes pour le livre, pardon, maman.
De ouf. Ouais, ça, c'est ma première piste. Elle a pas... Du coup, je me suis dit, pourquoi pas un automate ? Est-ce que vous avez des exemples d'automates ? Cherchez le plus simple.
Un automate
Siri ?
Plus simple, peut-être.
Un automate, moi, ça me fait penser à des trucs genre des jouets.
Une horloge, tout simplement.
Un automate, ou c'est pas les petites voitures que tu, que tu remontes.
Oui, ça peut aussi.
Et
mais
qui roule, c'est ça.
Ouais. C'est juste un exemple d'automate, bah, une horloge. C'est un automate, et historiquement, les horlogers ont toujours fait des très bons concepteurs d'automates, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, de machins et tout. Et voilà, donc si vous voulez voir à peu près ce que pourrait être un automate, bah, effectivement, dans toutes les montres un peu. Enfin, pas numériques, justement. Bah, c'est des automates au final. Les décorations de Noël des Galeries Lafayette, c'est des automates. Donc c'est des trucs où effectivement on leur dit quoi faire et puis elles le répètent. Ensuite, là on commence à rentrer un peu dans la complexité et je sens que vous n'allez pas voir tout de suite toutes mes références parce que j'ai sondé un peu et c'est pas ouf. Mais si vous dites un Android, qu'est-ce que c'est ?
Un téléphone.
Déjà alors, non, c'est un système d'exploitation.
Il y a un côté intelligent, non ?
Non.
Non ? Ok.
Non, mais c'est bien d'essayer. C'est le but.
Je vais dire de la merde. Donc
mais vas-y, essaye.
Non.
Ok, très bien. Un Android, en fait, c'est un automate, mais avec une forme humaine. Ah voilà.
Ouais. D'accord.
Donc, par exemple, dans Star Wars, C-3PO, c'est un Android.
D'accord.
Donc ça, c'est si on utilise Android...
C-3PO, c'est le grand argenté oui. Ou
celui
doré
celui
ou...
qui ressemble à un être humain, en fait.
Ah oui, c'est vrai.
D'où le terme Android. Ouais, oui.
Ah, c'est R2-D2, le petit. Ah, mais il y a trop de chiffres.
Vous m'écoutez pas du tout.
Mais si.
Si.
Moi,
si.
J'ai tout suivi.
Donc, alors là, on va rentrer un peu dans la complexité. Donc ça, Android, c'est si on utilise Android comme un nom, mais si on l'utilise comme un adjectif, c'est plus précis. Donc c'est un automate avec une forme d'homme. Donc un Android, c'est un automate avec une forme humaine, et quelque chose qui est Android, c'est un automate qui a une forme d'homme. Et le pendant féminin, c'est gynoïde.
D'accord.
Gynoïde, ok.
Voilà, vous le savez, gynoïde.
Bah, puis pour le coup, c'est un mot qu'on n'emploie jamais.
Voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup de robots femmes dans la science-fiction, mais bon, ça va peut-être venir. Ne serait-ce que par les doublages, etc. Les robots sont souvent doublés par des hommes, mais ils ne sont pas très genrés. Mais bah, par contre, dans Westworld, bah, c'est un parc d'attractions qui est peuplé d'androïdes, et ces androïdes peuvent être androïdes ou gynoïdes. C'est bon, vous suivez toujours? Ouais. Je vois que Camille prend des notes. Mais... Alors, Westworld, regardez, saison 4, très bien. Maintenant, on va parler des cyborgs.
Cyborg, ça me dit quelque chose aussi. C'est un truc de forme humain aussi.
Ouais, alors on peut reprendre sur les androïdes déjà. Je vous ai demandé si vous connaissiez un peu Dragon Ball Z.
Oui, mais ouais. Il y a très très longtemps, mais oui.
Est-ce que la saga Android, ça te dit quelque chose?
Pas du tout, mec.
Android 17, Android 18?
Non.
Non, ah bon. En fait, c'est des personnages de Dragon Ball Z qui arrivent vers le milieu de la... Qu'est-ce que j'ai marqué?
Ouais, c'est pas des enfants?
Non, c'est des, adultes. C'est des adultes et c'est des méchants au début. Et après, il y a genre Android 17, Android 18, et Android 18 qui se mariera avec Krilin d'ailleurs. Je ferai un sujet sur DBZ une autre fois.
Ne spoil pas.
Sauf qu'en fait, bah, on les appelle Android, mais c'est pas des androïdes. En fait, j'ai regardé des détails. En fait, c'est des humains qui ont été modifiés pour leur ajouter des parties mécaniques. Et donc, en fait, ce sont des cyborgs. Parce que c'est la définition
oui, exact,
de cyborg.
C'est vrai que c'est ça. Oui, tout à fait.
Okay. Donc, d'où la traduction française qui est plus correcte. Parce qu'en anglais, on va dire Android 18. Par contre, en français, on dit C18 pour cyborg 18. Pouh, oh là. Voilà, donc j'imagine qu'il va y avoir une foule de personnes qui vont être en mode wow, mais vu que vous n'êtes pas très chaud.
Si vous êtes... Oh my god!
Mais c'est incroyable! C'est incroyable!
Voilà, donc mais là, comment est-ce que je vais faire pour dormir cette nuit?
Incroyable!
Mais non, mais je trouve ça ouf parce que tout.
Non, mais c'est vrai.
Android, machin.
Voilà, c'est vrai.
Donc là, on a fait un petit tour de spectre entre de machine à cyborg et puis on a vu que robot, ça pouvait balayer un peu tout ça. Mais l'évolution, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise un robot? Et quand on est passé de l'automate au robot, bah, on peut distinguer trois grandes phases. Je vais passer rapidement dessus. C'est déjà l'ère des automates, en gros de moins 1500 à la fin du 19e siècle, à peu près. Donc des automates qui font toujours la même chose. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Mm-hmm. L'ère des robots, là c'est beaucoup plus court, fin 19e à milieu 20e. Donc c'est des automates donc avec une action automatisée, mais qui en plus sont dotés de capteurs, donc ils peuvent s'adapter à l'environnement. Donc ça coupe, ça coupe, ça coupe, mais hop, si tu mets ton doigt, boum, ça arrête de couper, parce que c'est malin. Tu vois? Ou bien l'aspirateur Roomba, ça aspire, ça aspire, ça aspire, paf, ça rencontre un mur, boum, ça tourne.
Ah, d'accord.
Parce que ça, c'est possible parce qu'il y a un capteur.
Ça aspire pas ton chat, quoi.
Oui, par exemple.
Oui, ouais. Ça te contourne.
Sacré Roomba, là.
Voilà. Et ça, c'est grâce au capteur uniquement. Donc ça permet de capter l'environnement. D'où son nom, capteur. Et enfin, l'ère de l'intelligence artificielle, donc milieu 20e à aujourd'hui, bah, c'est ce qui va caractériser cette ère, c'est énormément de capacités de traitement et de stockage, côté informatique, qui permet donc d'effectuer des déductions et des opérations qu'on va globalement apparenter à de l'apprentissage, mais c'est juste parce qu'il y a une telle masse d'informations et de traitements qu'on a l'impression que c'est « Oh mon Dieu, c'est intelligent !» En fait, les personnes intelligentes, c'est celles qui ont conçu ces machines, en fait. C'est pas les machines.
Oui, totalement. Voilà.
Et en petite conclusion, bah, en fait, ce que je trouvais rigolo, c'est qu'on a tendance à parler de robots souvent quand il s'agit d'œuvres à la pointe de la technologie. Donc, de fait, les robots d'autrefois, c'est pas forcément ceux qu'on va considérer comme robots aujourd'hui. Donc, si en 1950, on disait « Oh, regarde, ce robot, il est trop ouf !» Aujourd'hui, on va pas forcément appeler ça un robot, on va appeler ça une machine, n'importe quoi.
Ouais,
mais... Et aujourd'hui, on dit robot quand on pense que c'est un peu à la pointe de la technologie. D'où le coupe-légumes qui est con comme la terre, parce que, en fait, la différence entre une disqueuse et un mixeur...
Ouais, c'est beaucoup.
Voilà, c'est juste qu'on met des légumes dans le mixeur, quoi. Mais
du bois, oui.
Voilà. Mais à l'époque, c'était oh mon Dieu, ouf, et ça remplaçait une tâche faite par l'homme. C'était pas un outil. C'était vraiment un truc pour remplacer l'homme plutôt qu'un outil.
C'était pour aider l'homme.
Ouais.
Oui.
Et donc, plus la capacité d'adaptation et la complexité de la machine sera faible, plus on aura tendance à considérer que c'est un automate, et plus élevé, plus on aura tendance à parler d'un robot. Donc plus ça peut s'adapter à plein de cas, plus on va dire waouh, c'est tellement développé, c'est ouf. Et voilà, dans les faits, je trouve ça plutôt amusant de voir qu'il n'y a pas de définition qui corresponde à tous les cas, sans pour autant retomber dans des cas ultra généraux comme machine ou truc, ou bah, j'en sais rien. Et pour finir, je vous recommande quelques petits trucs, des contenus plutôt chouettos sur les robots. Sur Netflix, vous pourrez trouver une série de courts-métrages qui s'appelle Love, Death and Robots.
J'adore.
J'ai adoré, c'est excellent.
Celui avec le chat.
Oui,
parfait.
C'est préféré. Top. En fait, il faut savoir que c'est une série de courts-métrages qui fait à peu près une quinzaine de courts-métrages différents, un truc comme ça.
Je sais plus.
Dans 10-15. Et chaque court-métrage est réalisé par non seulement des personnes différentes, et surtout avec un style différent, style graphique, style technique, etc. Donc c'est extrêmement riche, ça peut être soit humoristique, soit trash, etc. Il me semble également que quand vous regardez la série, tout le monde va avoir un ordre différent. Donc personnellement, l'épisode que j'ai vu en premier ne sera pas forcément celui que Hicham a vu en premier.
D'accord,
celui que
Camille
verra en premier. Pas,
donc vraiment, on va profiter de chaque œuvre. Celle avec les fermiers, j'avais adoré aussi. Ultra beau. Mais voilà, il y en a très chouette. Et je trouve ça en tant que œuvre cinématographique, c'est très très cool. Il y a Les robots de Isaac Asimov, évidemment, c'est extrêmement digeste et facile à lire. C'est un peu science-fiction mais teinté de socio-psycho, parce qu'en gros, pour débugger entre guillemets les robots, ils vont discuter avec eux tout simplement pour dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre comment avec les trois lois de la robotique le robot en est venu à faire ça.
Ouais.
Donc si t'as fait ça, c'est que ok, t'as dû vouloir protéger quelqu'un ou t'as voulu faire ceci cela. Et c'est très cool. Et genre le tout début de la première du premier bouquin, c'est ok, qu'est-ce qui se passe quand on utilise des robots en tant que nounous pour les enfants. Et donc, tu vois, la société, le regard de la société dessus, etc. Donc, voilà, c'est plutôt chouette. Et puis, y a plein d'autres trucs. Il y a Westworld, plein d'autres choses. Mais je vous enverrai des petites recommandations sur notre groupe Facebook.
Merci.
Super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Parce que pour le coup, je m'y connaissais pas.
Voilà, et j'espère que vous regarderez Dragon Ball Z différemment maintenant. Pourquoi on appelle ça des androïdes, putain.
Voilà.
Merci beaucoup.
Oui. Ben merci à vous.
Est-ce qu'on passerait pas du coup
à Camille?
Oui, enlevez vos t-shirts, il va faire chaud les enfants.
Non, mais je ne pas la parole, hérétique, et bon.
Enfer et damnation.
Merci, je dis que en enfer.
C'est très chaud, non?
Oui, je confirme, c'est très chaud.
Ah, en plus, il commence à faire chaud dans le studio. Très classe les extraits.
Oui, le ta mère suce des queues en enfer, il me semblait incontournable. Voilà. Donc, avant tout, je tiens à vous dire que quand tu tapes juste sur Google comme ça en...
Ta mère suce des queues en enfer,
Enfer chrétien, c'est la foire aux churros.
Ah bah ouais.
Ça part totalement en couille, c'est-à-dire que c'est la farandole des témoignages douteux de gens qui ont connu des expériences de mort imminente, et qui ont eu Saint-Pierre, Sœur Emmanuel, un ancien pape, ou Casimir le dinosaure, qui les a accompagnés visiter les enfers. Et ensuite, pouf, le SAMU les a réanimés, pouf, leur greffe du cœur a fonctionné. Voilà. Et ils sont revenus et ils peuvent nous partager ce qu'ils ont vu comme enfer chrétien.
C'est la foi.
Que tu nous as fait une sélection.
Non, du tout, vous irez vous-même. Mais YouTube, ça regorge de témoignages là-dessus.
Hâte de regarder ça.
C'est chouette. On va pas se mentir, c'est chouette. Et j'ajoute à cela que notre bien-aimé patron, il avait déjà parlé des enfers.
Voilà, j'ai eu peur quand tu m'as dit « je vais faire l'enfer ».
Dans l'épisode 6 de la saison 2, mais c'est vrai que tu avais parlé des enfers païens, des enfers numériques.
Les enfers au pluriel.
Voilà, des enfers. Moi, je veux vraiment me focaliser sur l'enfer chrétien parce que c'est un petit peu l'image total qu'on a des enfers, c'est-à-dire le diable à queue fourchue, il y a du feu, il fait chaud, il y a de la douleur.
Et puis c'est une des plus récentes, à part l'administration française.
Oui.
Ma blague politique.
Génial. Incroyable.
Pardon, je suis surexcitée.
Mais voilà, et justement, quand je vous dis enfer, je pense que vous imaginez tout de suite du feu.
Du feu, des pics.
Oui.
Des pics.
Ouais, des trucs
un peu de vomi, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais...
Des babouches enflammées, on l'avait déjà mentionné.
Oui,
c'est vrai.
Mais
voilà.
pas tout à fait dans le feu, chrétien.
Peut-être pas dans le... Non, mais des sandales de moine enflammées.
Par contre, je pense que Christine Boutin, dans l'enfer chrétien, elle aura des babouches enflammées pour le coup. Mais bon, encore une fois.
Et on va voir si, en fait, les chrétiens ont toujours partagé cette vision de l'enfer ou pas.
Ah.
Voilà. Donc, le livre de référence des chrétiens, c'est quoi?
Bible.
L'Ancien Testament.
Précisément.
Le
Nouveau Testament, exactement. C'est le Nouveau Testament. Alors du coup, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on nous raconte sur les enfers dans le Nouveau Testament? Parce que c'est un petit peu la base de la base pour construire ton enfer chrétien, tu vois.
D'où notre trépasse.
Eh ben, on n'en parle quasiment pas. Notre
chien méchant.
C'est ça. Chien trois têtes agressif, d'où notre trépasse. Donc non, oui, on n'en parle quasiment pas de l'enfer. Il est quasi inexistant dans le Nouveau Testament.
Ok.
Alors, on va dire de temps en temps que c'est le royaume des morts. Mais en fait, on parle presque jamais que c'est un royaume des morts pas cool. tu vois, qu'il y a des peines endurées qui sont pas agréables si tu as une vie un petit peu pourrave. Donc on nous dit qu'effectivement, Jésus est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est allé chercher des âmes que Satan, ce grand salopard, retenait sans nous avoir demandé l'autorisation à Dieu le Père.
Ouais. Et Satan, là.
Donc Jésus y est allé, il lui a dit, excuse-moi, tu me rends mes lascars, ils n'ont rien à faire chez toi, eux, et il les a remontés.
On rappelle un épisode de The Good Place.
Tiens, on dirait le mec des Nations Unies, genre, oh, les deux prisonniers, là, hop.
Ça, Jésus était un petit peu le casque bleu de l'Antiquité.
Il y avait faute, là, hop, ils reviennent sur le terrain.
Et donc, du coup, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, on a Jean, qui est un des auteurs du Nouveau Testament, qui est l'auteur de l'Apocalypse et qui en parle un petit peu nécessairement dans l'Apocalypse. Voilà, il nous dit que ça n'a pas l'air d'être incroyable. Il dit plusieurs fois, voilà, bon, bah, les méchants, ils vont aller en enfer. Mais c'est flou, quoi. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, en fait. C'est, voilà, c'est archi flou. Il n'y a pas de définition des enfers.
Tu veux dire qu'il manquait de source
dans le Nouveau Testament. Ouais. Et surtout, ce n'est pas une putain de fatalité dans le Nouveau Testament, les enfers.
Ah, donc tu peux aller aux enfers et après repartir au Paradise. Alors,
non, c'est pas ça. C'est que t'es pas. Enfin, on ne nous dit pas que si t'es méchant, t'iras en enfer à aucun moment. Je vous donne un exemple. Qui est le grand salopard du Nouveau Testament? Le grand culé Sars.
Satan.
Non, ben non. Non, non, en humain.
Ah,
c'est pas le...
Oui, Judas.
Judas, ah, voilà. Judas, à aucun moment, on nous dit qu'il va en enfer. On sait pas ce qu'il vient.
Ah, mais ça se trouve, il y va quand même.
Oui, mais, enfin, je veux dire, c'est à aucun moment, il dit, ah, regardez-moi, gros enfoiré. Eh ben non, on sait pas. Donc, en fait, le doute est permis. Donc, c'est pas vraiment à la fin de l'Antiquité, au moment où la religion chrétienne se développe, qu'on va mettre au point l'enfer qu'on a aujourd'hui. L'enfer qu'on voit aujourd'hui, avec le diable et tout, il date de quelle époque ?
Moyen-Âge, si tu souris.
Moyen-Âge !
C'est que c'est le Moyen-Âge. J'allais dire les années 50, je l'ai vu sourire, j'ai dit Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge, exactement. Donc au début...
C'est les années 50 après la Deuxième Guerre mondiale. Allez, hop, on fait.
L'image actuelle de l'enfer chrétien, ça va se développer au niveau populaire. C'est-à-dire que le gueux, eh ben, il se demande ce qu'il attend après sa mort. Le gueux, il se dit, j'ai une vie de merde, je crime.
Il a déjà assez chié comme ça, il fait bon, qu'est-ce qui va se passer après?
Non, mais exactement, la vie, elle est super dure, donc on espère qu'on ne trimera pas pour rien, parce que sinon, il n'y a quand même aucune raison de vivre. Mmh. Et donc, on veut très fort croire que ceux qui ont trimé toute leur vie et qui n'ont pas fait de mal aux gens vont pouvoir aller dans un endroit cool. Et on espère surtout que, puis dans un endroit cool de façon éternelle. C'est-à-dire que c'est au Moyen-Âge qu'on parle vraiment d'une notion d'éternité. Pour l'enfer ou le paradis.
Parce qu'il faut payer la location.
C'est-à-dire que
les moyens,
non seulement c'est le bonheur, mais en plus c'est le bonheur tout à le jamais, tout le temps, exactement. Ça, c'est assez important comme notion. Et au contraire, le gueux médiéval, il espère que le profiteur, le méchant, vous savez, dans le dessin animé Robin des Bois, le shérif, là, ce gros bâtard qui vient voler la pièce dans la main de la petite fille, et voilà, c'est le type de personnage où on se dit, lui, on espère que il va aller en enfer.
c'est exactement ce que disaient les paysans à l'époque. Allez, tiens.
Donc, du coup, en fait, dans cette vision populaire du début du Moyen-Âge, les fidèles, ils sont doublement récompensés. Ah, ils ont la joie éternelle après la mort, et en plus, ils ont le bonheur de voir aller en enfer les tocards qui les ont fait suer pendant leur vie. Il y a ce petit côté œil pour œil, dent pour dent, loi du talion, tu vois.
Un peu mesquin aussi.
Au ciel, tu vas récolter ce que tu sèmes, et ce sera bien fait pour toi.
Il n'y a pas péché de mesquinerie, un peu
Non, peut-être. Alors, la toute première description détaillée des enfers, qui correspond à peu près à l'image qu'on a des enfers aujourd'hui, elle date de la fin d'Antiquité, et en fait, elle date vraiment de la fin de l'Antiquité, et elle va durer pendant tout le Moyen-Âge, et ça s'appelle l'Apocalypse de Pierre. Donc, on nous a sorti un Apocalypse que Saint-Pierre lui-même aurait écrit. Donc,
un Apocalypse.
Une Apocalypse ? Une apocalypse.
J'ai l'impression, mais après...
Oui, non, j'ai dit un apocalypse.
Peut-être que c'est un quand ils sont pas mûrs, ou je sais pas.
Non, c'est une apocalypse, okay. Je crois. Et
je suis pas certain. Mais...
Moi, en fait, à chaque fois que je me pose la question, tu sais, du genre pour un mot, du coup, je sais plus, j'ai de doutes.
Voilà. Très bien.
Donc, du coup, dans l'Apocalypse de Pierre, on nous dit que, par exemple, les blasphémateurs, qu'est-ce qui va leur arriver?
Ah, l'enfer, direct.
Oui, mais qu'est-ce qui va leur arriver en enfer? Parce qu'il décrit...
Ils vont se faire piquer la langue avec des petits pics.
Eh ben t'es pas loin, ils vont être suspendus par la langue.
Magnifique jeu.
Éternellement, comme ça.
C'est féminin, l'Apocalypse.
Ah, ok, très bien, merci chouchou. Les meurtriers. Alors les meurtriers, eux, ils vont être enfermés avec des reptiles malfaisants.
Ok.
Pas cool.
Ok, cool. Ouais.
Et il y a un lac de pus. Il y a un lac horrible. De pus qui est constitué du pus de toutes les plaies infectées des suppliciés. Non, mais cette imagination.
Ils ont pris le terme de plaie au premier degré, là, ça pas du tout.
Et donc, il y a ce gros lac de pus où on retrouve d'autres suppliciés également qui sont éternellement dans ce lac de pus. Moi, j'avoue, le lac de pus, il me dégoûte.
Ils baignent tous dedans en même temps, c'est pas très dur.
Mais non. Ah, puis tu bois la tasse. C'est horrible. Puis tu peux pas ouvrir les yeux sous l'eau.
Non. Pas là, non.
Enfin, bref.
Bon, voilà. Par contre, tu peux péter dans l'eau tranquille, hein, vraiment. Oui. Ça change rien.
Ça doit être bien épais, le pus.
Est-ce qu'on peut continuer
Alors. Et donc, au début, voilà, c'est vraiment l'enfer vu par l'enfer populaire. Et les pères de l'Église, c'est-à-dire qu'au moment où on va institutionnaliser l'Église, ça va prendre un petit peu de temps. Au moment où on se dit, OK, la foi catholique, elle est bien répandue, maintenant, il faut mettre des bases, les gars, des bases, des règles, etc. Donc, vers le 4e siècle, les pères de l'Église, ils commencent à réfléchir à cet enfer qui a été un petit peu forgé comme ça, par cet enfer populaire qui est forgé, où vraiment, tu peux prendre super cher, enfin, être suspendu par ta langue pour une éternité, c'est quand même long. Et ils se sont dit... Est-ce que ce serait pas un petit peu incompatible avec la bonté supposée du Dieu chrétien ?
Mais du coup, ça serait pas Dieu qui ferait ça, ça serait un méchant.
Ah ben non, parce que Satan, c'est quand même créature de Dieu.
Ah oui. Parce
et puis, est-ce que Dieu, il accepterait ? Est-ce que Dieu, il devrait... Tu vois,
c'est... Mais peut-être qu'il a pas le temps.
C'est incompatible. Moi, je pense qu'il a un gros calendrier, Dieu. Et donc, du coup, on va dire non. Le feu des enfers, en réalité, c'est une métaphore. C'est la métaphore du remords du pécheur. Il est consumé par le remords.
Oh.
Comme par une flamme éternelle.
Oh, belle pirouette. Genre, hop, esquive.
Pas mal, hein ? Voilà. Et on explique que, bah, du coup, après ta mort, en fait, tu brûles de remords, littéralement. Mmh. Et ensuite, il y a l'apocalypse. Parce qu'en fait, la mort et l'apocalypse, ça, pour les gens qui n'ont pas lu les apocalypses ou quoi, je me permets de préciser, parce que ça paraît peut-être un peu flou. En gros, dans la conception chrétienne de l'au-delà, on meurt. Nous trois, vous tous qui nous écoutez, on va mourir. Je suis désolée de vous l'annoncer. C'est une certitude, ça arrivera.
Pas forcément demain, en
mais,
même temps,
mais... vous savez, cette conception du jugement dernier, quand ensuite on va se retrouver, pour ceux qui y croient, qu'on va se retrouver devant Dieu et où Dieu il va dire ça, c'était pas cool, ça, c'était pas ouf, je t'enlève un point pour ça. Et où va décider si on va en enfer ou au paradis.
Ça a donné 5 étoiles sur iTunes.
Ça se passe pas après notre mort.
Ah, c'est à l'apocalypse.
C'est à la fin du monde, c'est à l'apocalypse. Donc c'est-à-dire qu'on va déjà dans un premier lieu avant. Et ensuite, il y a un jugement, en quelque sorte. Et ensuite, il y a un jugement.
Et si je dis pas de bêtises, l'apocalypse, ça veut dire genre le lever du voile, la révélation. Un peu.
Exactement.
Donc en fait, c'est un peu ce qu'ont les Vikings aussi avec le Ragnarok. Genre, tu peux mourir, aller en enfer ou au paradis, mais il va se passer un autre truc derrière.
Et voilà, il se passera un autre truc derrière. Et donc là, en fait, les pères de l'Église, ils disent, bon bah voilà, tu peux être consumé par le feu du remords, et après l'apocalypse, tout le monde sera pardonné, c'est la fête du slip.
Tout le monde ?
Tout le monde. Tout le monde.
Attends, mais du coup, ça
veut dire. Si t'as violé une gamine de 12 ans, c'est bon, quoi.
Et puis, attends, ça veut dire qu'il y a une éternité, mais qui est finie ?
Bah, du coup, il n'y a plus de concept d'éternité. Ça va jusqu'à l'apocalypse. Tu vas
jusqu'à la fin de l'éternité.
Tu vas en enfer jusqu'à l'apocalypse, en gros.
Ah, bon, bah, ça va alors.
Oui, ça va. Après, si l'apocalypse, il est dans 2 millions d'années, c'est long, hein. Suspendu dans la langue. Bref. Vous dans un lac de pus. Ouais. Mais, assez rapidement, on se dit. Ouais, mais le Dieu super gentil, et puis dire à tout le monde que. On ira tous au paradis. Effectivement, la première réaction, c'est toujours bah, ça va, du coup, enfin, clairement. Ouais. Et donc, on se dit, c'est con. En fait, un enfer à la fois physique et à la fois éternel, c'est quand même vachement pratique pour contrôler les populations.
Ah.
Donc, on va revenir sur notre concept d'enfer physique et éternel. Donc, on a Saint Augustin, que vous connaissez, je pense, de nom.
Bah, pour
un dessin les plus connus, voilà. Donc.
Pour la station Saint Augustin.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Saint Augustin, au 5e siècle, lui, il va vraiment bien parler des enfers.
9e siècle.
Au 5e.
Ah, ça merde.
5e siècle, désolé. Il va dire voilà que l'enfer éternel, il est réservé pour les païens, donc ceux qui sont pas chrétiens. Mm-hmm. Voilà, Hicham, désolé.
Pour... Bah, moi non plus, enfin, pour Hicham.
Ah, bah oui, t'es pas baptisé, toi.
Ah, bah si, mais pas de la bonne religion. Donc,
ah, oui, bah non,
ça va
désolé.
Poser problème.
Voilà. Pour les enfants qui sont morts sans baptême, pas de chance, désolé, enfer éternel.
Ouais.
Alors qu'ils ont rien demandé, les petits chiens. Et pour les chrétiens qui s'obstinent vraiment à pécher. Bon, bah moi-même, désolé.
pas de détails, allez, hop, suivant.
Et l'enfer, il débute à l'apocalypse.
Ah, donc c'est-à-dire qu'avant,
t'as. Mais après, c'est éternel.
Donc,
et avant.
Une salle d'attente avant.
Ouais, mais t'as une salle d'attente infernale. Qui est pas sympa non plus. Donc voilà. Tiens, avant, cool, après, t'en chies. En gros. Voilà. Et au 6e siècle, il y a les moines qui disent « Ah ouais, mais nous aussi, on voudrait faire un peu plus flipper les gens parce que dans les petits villages à côté de chez nous, les gens, ils font encore trop de la merde. » Donc les moines, ils vont écrire des textes en disant « Bah nous, on a eu des révélations, on a eu les stats, et pour le moment, le paradis, il est grave réservé à une élite, et l'enfer, la majorité des humains y vont, quoi. Votre tata Janine, elle est en enfer. » Voilà ce que les moines vont dire aux gens.
Et c'est pas pour ça qu'ils vont demander des tickets au paradis, tout ça ?
Bah on y arrive, on y arrive très vite, t'en fais pas. On a même un moine du 12e siècle qui est tombé dans le coma. D'accord, ça arrive. Et il raconte que Saint-Pierre lui a fait visiter les enfers. Il est devenu agent immobilier, Saint-Pierre. Et il lui fait visiter les enfers. Et chaque supplice correspond au péché que tu as fait. Voilà. Donc, je crois que j'en ai noté un ou deux. Ah non, j'ai noté celui d'un autre moine irlandais qui a vécu la même chose, toujours au XIIe siècle, donc qui s'appelait Tungdal. Donc Tungdal, il nous raconte que les impudiques, donc là les impudiques, à toi l'auditeur qui a déjà fait l'hélicobite dans une soirée, c'est toi que ça concerne, eh bien tu vas être dévoré par un monstre qui va te digérer et qui va te rejeter par son anus sous forme de caca, mais tu seras toujours conscient et tu resteras un caca conscient.
Ah, et bah
ça fait cher l'hélicobite.
Et bah tu sais quoi, ça me paraît plutôt juste. Et ouais, bah voilà, c'est mérité. On laisse sa bistouquette où elle est.
Exactement, bon. Rangez vos zizi, sinon.
Ok, rangez vos zizi, ça suffit maintenant.
Voilà, au bar, on range son zizi, sinon on finit en caca de monstre. La majorité des damnés, donc j'ai envie de te dire les damnés de droit commun, quoi. Hein, nous tous.
Les damnés de droite. Et bah, les gens de droite, ils vont en faire aussi.
On va être chauffés à blanc et soudés ensemble. C'est bien ? On va rester unis ?
Alors, niveau distanciation sociale, c'est pas ouf.
Ouais, pour le Covid, j'avoue, c'est oui, mais on aura des masques.
C'est du recyclage, c'est cool.
Ouais, et puis ça fait un peu une chaîne humaine.
Voilà.
Ouais.
Oui, moi j'ai pensé tout de suite à Humaine Centipède.
Oh, Camille. Oui.
Bah, désolé.
En enfer, direct, allez hop.
Et il y en a d'autres, alors ça je sais pas pour qui ça va être, mais il y en a d'autres, ils vont avoir des serpents qui vont naître dans leur ventre et qui vont péter la peau du ventre pour sortir. Et ça, je me suis dit, ça doit être ignoble, je sais pas.
Ouais, ça n'a pas l'air agréable de ouf.
Et puis, bah là, moi, je l'ai pas noté là, donc ça devait être quand je vous ai parlé du lac de Pu dans l'Apocalypse de Pierre au IIe siècle. Et bah, dans le lac de Pu, il y avait toutes les femmes qui avaient eu des enfants hors mariage. Elles étaient dans le lac de Pu avec leur bébé.
Ah, bah, j'ai une paire de potes qui ont baigné dans le Pu un moment, hein, sans vouloir balancer.
Oui,
Attends, les femmes qui ont eu des enfants hors mariage et les hommes. Ça va, tranquille. Ils sont à côté, genre. Nage,
Je te rappelle que nous, on a bouffé la pomme. Donc, voilà.
Non, mais tu sais, j'imagine tous les mecs à côté, genre, mes brasses. Oh, les coups, elle a fait n'importe quoi.
Mais fais la nage indienne, putain, tu le faisais super bien à la piscine municipale de Bagneux, bordel. Oh. Ah. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça a l'air sympa. Et à partir du XIIe siècle, donc à partir de cette époque où il y a plein de moines qui disent « Moi, j'ai vu les enfers, ça va pas être cool », on déclare que Dieu, ça va vraiment être un juge, mais comme un juge de tribunal de l'époque. On dit « Voilà, Dieu, il va t'attendre, il va y avoir vraiment le petit tribunal des familles ». Et c'est à cette époque-là que vont apparaître les représentations sculptées de jugement dernier sur les façades de cathédrales. Oui. Oh. Quand le parvis de Notre-Dame réouvrira, vous pourrez aller voir celui de Notre-Dame qui est très très beau. Et vous avez en France de très très connus, vous avez Conques et Autun. Donc si vous habitez pas très loin de Conques ou d'Autun, allez voir les jugements derniers. Vous voyez toutes les descriptions des enfers donc, qui sont sculptés. Quoi.
Ouais, il me semble que c'est pour ça qu'il y a souvent des têtes de mort sur les parvis et trucs comme ça. Non
ouais, alors ça c'est un peu plus tard. Okay, mais oui, c'est toujours au Moyen-Âge, mais c'est un peu plus tard et c'est pour une autre raison. C'est pour se rappeler qu'on est mortel et effectivement qu'il ne faut pas merder. Mais c'est un peu plus tard.
tu passes acheter ton pain, fais gaffe.
Oh. Oui, mais c'est exactement l'idée. C'était qu'il fallait qu'on te rappelle à tout moment que tu peux crever d'une rupture d'anévrisme dans les deux secondes. Voilà, c'est sympa.
Avant de faire l'hélicobite, pensez à ça.
Exactement. Donc voilà. Et à partir du XIIIe siècle, l'Église va dire bon, bah, il y a deux types de péchés. Voilà. C'est pour rassurer un peu les gens. Il y a les mortels. Donc les mortels, c'est ceux qui t'envoient en enfer, on peut rien faire pour toi. Voilà. Et il y a les véniels.
Les péchés mortels.
Oui, il y a les péchés mortels.
On est tous mortels. Et
oui, voilà. Il y a deux types de péchés. Les mortels, les péchés mortels. Et il y a les véniels. Et
véniels.
Voilà. Et les véniels, en fait, c'est les péchés qu'il faut que tu te fasses pardonner dans ta vie.
C'est ça qu'on dit parfois dans les vieux films, genre, tu sais, quand tu bois un petit coup de truffe rose, un petit péché véniel, ça...
Oui.
Alors que normalement, c'est pas bien la gourmandise, mais tu peux te faire pardonner.
C'est un péché pas grave, tu vois, tu sais, c'est comme...
C'est un misdemeanor.
Misdemeanor.
C'est un petit crime.
D'accord.
Oui, voilà, c'est un truc.
C'est un misdemeanor.
Tu vois, c'est péter dans la piscine municipale, c'est ça, un péché véniel.
Oh.
Tu vois, voilà.
C'est manger la dernière chouquette, c'est un péché véniel.
Exactement.
Ok.
Et donc, du coup, comme on a ces deux types de péchés, on va en profiter pour créer le purgatoire. Et ça, c'est une invention du XIIIe siècle. Le purgatoire, c'est le truc qui est entre l'enfer et le paradis. Et si t'as fait plein de péchés véniels, tu vas être condamné lors du jugement dernier à aller faire une petite durée au purgatoire avant d'accéder au paradis, pour te purifier ton âme.
C'est-à-dire quand même, dans le royaume des morts, il y a une putain de tôle.
En quelque sorte.
Donc tu vois, Balkany, au final...
Et ta durée de passage... Donc on part du principe que, sauf si vraiment t'es Mère Teresa, tu passeras par le purgatoire, quoi. Vraiment, okay. C'est ok. Et en fait, le purgatoire, l'Église te dit, eh ben, du coup, tu peux avoir une peine de purgatoire qui peut être super, super...
courte.
Long. Courte, ouais. Si tu donnes des thunes à l'Église.
Ah.
Et c'est là qu'apparaît effectivement la période où tu vas commencer à racheter tes péchés.
Parce que du coup, si tu donnes la thune à l'Église, tu fais ça pour promouvoir la bonne parole.
Oui, mais exactement, tu nourris la maison de Dieu. Donc voilà, donc cette peur de l'enfer chrétien, elle va durer jusqu'à la fin du 19e siècle. À partir du 19e siècle, bah, vous le savez, il se passe plein de choses. Il y a la laïcité qui se met en place en France. Il y a la séparation après de l'Église et de l'État, etc. Et la peur de l'enfer chrétien va petit à petit disparaître. La question se pose quand même... beaucoup moins aujourd'hui, c'est presque tombé dans une forme de folklore.
Bah oui, et puis honnêtement, si même Mère Teresa elle va au purgatoire, je vois pas l'intérêt d'être Mère Teresa. Hein.
Oui, et c'est-à-dire que même aujourd'hui, l'Église change un petit peu son fusil d'épaule. C'est-à-dire que je suis allée me renseigner, alors je suis pas allée sur le site de l'Opus Dei, j'ai voulu aller sur un truc que un catho pratiquant d'aujourd'hui, mais sans tomber vraiment dans un extrême, etc., pourrait lire. Donc je cherchais un article sur la croix, qui me paraît...
qui font des bons reportages.
Voilà, exactement, qui me paraît tout à fait tranquille, etc., mais qui, comme son nom l'indique, est catho. Et je me suis dit, il y a forcément des trucs qui traitent un petit peu des enfers. Mmh. Et ils répondent à des questions, parfois, de lecteurs. Et il y avait quelqu'un qui avait dit, peut-on vraiment croire aux enfers, etc. Et même dans la croix, en fait, ils disent, bah non, les enfers, en fait, c'est se séparer de Dieu pour l'éternité, c'est... en gros, les enfers, on le cherche, mais c'est pas du tout un châtiment physique, c'est le remords, c'est avoir un petit peu une âme tourmentée après la mort, etc. Donc même eux, ils sont plus en mode, bah oui, oui, bien sûr, t'as bouffé trop de gâteaux au chocolat, on va te mettre un pieu dans les fesses, quoi. Enfin voilà, c'est ils en sont plus là.
Et puis si tu t'es mis un pieu dans les fesses, il y a moyen que t'ailles en enfer aussi, mais bon.
C'est vrai.
Ce sera...
Et pour ceux que ça intéresse, vous savez, il y a les séries Que sais-je ?
Oui.
Et je crois qu'il y en a un sur l'enfer que j'avais vu chez Gibert. Et en général, enfin moi j'ai plusieurs que sais-je chez moi. En général, c'est plutôt bien écrit. Et je sais qu'il y a un que sais-je sur l'enfer chrétien. Donc moi je vais me le prendre à l'occasion quand j'aurai eu le temps de retourner chez Gibert. Mais allez-y, si ça vous botte, voilà.
Eh ben merci beaucoup.
Cool.
Bizarrement, ça m'a un peu rassuré parce que je sais que j'irai.
Tu fais pas l'hélicobite ?
Non, non, c'est plutôt je sais que j'irai en enfer, mais bon, moi je sais que j'y serai avec vous, donc.
Ça... On sera soudés tous ensemble.
Clairement.
On sera au square non chrétien.
Oui, oui.
Ah non, vous allez me laisser toute seule, merde.
Bah, oui.
Bah excuse-moi. Mais
oh, baptisez-vous les gars.
En plus, tu te souviens quand on avait fait le sujet sur le christianisme, le square non chrétien, bah il sera plus grand que le square chrétien. Donc.
Ouais. Ah non, mais venez par ces temps là où il fait chaud, c'est sympa un baptême, un petit peu d'eau sur le front, quoi.
En plus, vu ce que t'as péché, t'as cru qu'ils allaient t'accepter au square chrétien. Moi bon, alors.
Tu n'as pas fait l'hélicobite, moi.
Nous ne pouvons ni infirmer ni confirmer cette déclaration. Ouais, du coup, est-ce que on ne... bah, déjà merci beaucoup, c'était trop cool.
Je vous en prie.
Et est-ce qu'on ne passerait pas à ce super reportage de notre reporter ?
Écoutons-le.
Et bonjour les amis, comment ça va ? Alors, on n'est pas trop enfermés ? Pas trop jaloux ? T'es dans ton télétravail, je suis avec mon bétail, Norage, de mes pâturages, car je suis actuellement dans le Colorado. Dans le Colorado, oui, mais pas n'importe lequel, le Colorado provençal, puisque je n'ai pas le droit de quitter le pays, comme chacun d'entre vous. Je me suis donc rendu dans le Vaucluse, où se trouve cet endroit splendide qu'est le Sentier des Ocres et le Colorado provençal. Alors le Sentier des Ocres, pourquoi ? Parce que l'ocre est un pigment naturel qui est mêlé au sable des falaises et ce qui donne cette couleur jaune, orange, rouge qu'on retrouve notamment dans les célèbres photos du Colorado. Sauf qu'ici, on se trouve dans le Vaucluse et ça donne un petit côté western à vos vacances si jamais vous ne puissiez pas voyager en dehors de ce magnifique pays qu'est la France. Et si vous souhaitiez prolonger vos vacances dans le thème du western, j'en profite pour vous dire que à Cuges-les-Pins, sous le parc naturel régional de la Sainte-Baume, à la frontière du Var, en gros, se trouve un très ancien parc d'attractions qui s'appelle Hockey Corral. et Hockey Coral, hein, comme la fusillade de 1880 à Tombstone dans l'Arizona. Donc Hockey Coral, qui est un ancien parc qui, bon, là n'est pas ouvert actuellement évidemment avec la crise sanitaire, mais le sera peut-être un peu plus tard, et a pour thématique les westerns, les cowboys, les indiens, tout ça, et si jamais vous voulez donner un petit parfum d'ouest sauvage à vos vacances, et ben vous pouvez toujours essayer ce petit combo Sentier des Ocres, Colorado Provençal, Hockey Coral. Ce sera un bon début pour essayer de vous dépayser un petit peu. Sur ce, je vous laisse, j'ai pas que ça à faire, j'ai des bêtes à rentrer, et je vous embrasse, à très bientôt.
Eh bah, fort bien, merci. Bah voilà, en
plus, les bons plans.
Exactement, il devient agent de voyage maintenant, c'est magnifique.
Il peut tout faire.
Et maintenant, vous savez qu'il fait le bruit du cheval à la bouche. Non, j'ai con.
Puis il tape avec des noix de coco pour faire les sabots.
On le fait trop bien, on est d'accord. Bon, ok.
On prend un troupeau.
Mais ça nous a fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Et puis, ouais, j'espère qu'on pourra le voir bientôt ou qui viendra. Mais malheureusement, à d'autres canassons,
mais
ça
Juan,
risque
viens,
de prendre un petit moment.
Ouais. Viens nous voir, Juan.
Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler de Reine de Saba.
La reine à la coquin. Ça vaut beaucoup d'argent, mon chat. Reine de Saba. J'aurais jamais pensé à elle. Vous n'êtes pas beau, elle est belle. Elle est très riche. Vous êtes idiot.
Ah, si!
La reine de Saba. Cette reine, elle est représentée dans les textes des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais on entend aussi parler d'elle dans le folklore égyptien et arabe. Elle est donc liée aux trois religions, mais aussi à trois civilisations, donc la civilisation occidentale, africaine, puis aussi le Moyen-Orient. Elle est parfois blanche de peau, parfois noire. La reine de Saba est décrite comme une figure magique et mystérieuse, arrivée un peu de nulle part. Elle est aussi la représentation de la beauté des femmes d'Afrique. Elle paraît à la fois exotique pour son côté africain, orientale pour le sud de l'Arabie et érotique pour sa supposée relation d'amour avec le roi Salomon. Mais je dis bien supposée parce qu'on n'a pas de vraies preuves de ça.
Oui, il n'y a pas de photo. Voilà.
Ouais, on verra ça un tout petit peu plus tard.
Il n'y a pas eu de sexto ?
Ni de sextape. D'ailleurs, donc Saba, ce n'est pas son nom. Mm-hmm. C'est le nom du royaume.
Ah bah oui, c'est logique.
C'est la reine de Saba. Mais elle aurait pu être aristocrate.
Ouais, ça peut être la reine de Montmirail, mais non.
Mais non. Donc Saba, c'est situé au sud de l'Arabie Saoudite, donc vers le Yémen actuel, et dans la corne de l'Afrique, en Éthiopie et l'Érythrée. L'Érythrée.
Oui.
Et on me demande à l'oreillette, c'était quand cette histoire ?
Ah, mais c'est.
Mais je crois qu'on sait pas précisément parce que c'est l'époque biblique.
5e siècle avant.
Donc.
C'est-à-dire.
Comment
ça
C'est l'époque des...
J'avoue que c'était à l'époque biblique.
Non, mais c'est, je veux dire, non, c'est l'époque des rois, oui. De ce qu'on appelle les rois de Judée, donc...
Bon, on est à peu près...
C'est mauvaise.
Moi, je dirais moins 5, moins 500.
Moins 500 ?
Non, ouais. C'est plus, c'est pas moins 1500, un truc comme ça, moins 2000.
C'est le 10e siècle avant Jésus-Christ.
Alors...
C'est aussi loin que ça ?
C'est aussi roi que ça.
Et ben Jésus, il était fort quand même, parce que tout le monde dit, oh, il descendait du roi David, du roi Salomon et tout, le mec, il est remonté sur 10 000 ans dans son arbre généalogique, quoi.
J'avoue. Et puis...
Et il n'y avait pas copain d'avant à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue.
Et puis, ouais, quand tu vis 30 ans, en plus, voilà le nombre de générations qu'il faut pour 10 siècles. Mais bon...
Ah. Ça t'en fait du papyrus dans ta casbah à garder, tu sais.
Pardon, vas-y.
Donc, moi, je vais commencer déjà par vous raconter l'histoire du folklore. On va vraiment passer sur tout.
Ok.
Donc, d'après une fable trouvée à Marib, une petite ville située à l'est de Sanaa, la capitale actuelle du Yémen, il y a fort, fort longtemps, un esprit du nom de Umayya s'était déguisé en femme. Elle est tombée amoureuse d'un conseiller très proche du roi. Ils ont eu une relation illicite, font des chocs à pic. Et ont une fille ensemble.
Genre la légende où la meuf tombe d'un pauvre notaire administratif, tu vois. Sympa, oui.
Donc, elle est moitié humain, moitié djinn. Ils l'ont appelée Bilkis. Les années. Mais c'est un prénom. Moi, j'aime bien Bilkis.
Tu dirais les petits bonbons des années 90 aux USA.
Tu vois,
un truc qui crépite un peu. Oh, des Bilkis. Ou des céréales, pardon, vas-y.
Bref, donc les années passent, puis un jour, Bilkis apprend par des marchands de passage qu'un méchant roi allait venir régner sur Marib. Donc Bilkis ne voulait pas, elle ne voulait pas d'un méchant roi. Un soir, elle a réussi à se faufiler chez lui, elle le poignarde dans le cœur.
Chez le méchant roi ?
Ouais. Donc elle a sauvé le peuple du royaume de Saba et le remplace en tant que souveraine. La reine de Saba est née.
Ok.
Ah putain, mais c'est archi rapide comme histoire. Quoi. On ne sait pas comment elle a retrouvé son adresse. On ne sait pas.
Ouais, c'est... Attends, t'aurais vraiment voulu qu'on aille dans. Alors, il a demandé à son cousin parce que son cousin connaissait un mec. Donc en fait, elle a fait un coup d'État.
C'est un peu ça. Okay. C'est un peu ça, mais elle a vraiment sauvé son peuple.
Ok. Ouais.
Et puis, il ne fait un coup d'État que celui qui le rate, au final. Quand tu réussis, tu sauves un peuple.
Ah. Oh.
Ouais.
Boom. Ok, moi je suis à peu près tout seul là. Très bien.
Oui,
près,
non, ouais. Non.
En tout cas, 1 sur 3, ça c'est sûr. Ouais. Donc l'histoire raconte que son palais avait 360 fenêtres pour laisser passer le soleil qu'elle idolâtrait. Et petite anecdote complètement fausse, parce que je l'ai inventée. Mais quand j'ai appris qu'elle vénérait le soleil, j'ai eu un petit déclic avec son titre.
Ah oui.
La reine de Saba. Saba, en arabe, le veut matin. Dire journée, matin. Tu vois le rapprochement, oui. Ça va.
Et en fait, ça n'a rien à voir.
Absolument. Donc c'est juste une théorie que j'ai inventée moi-même, ça n'a aucun rapport.
Non, mais moi j'aime bien aussi.
Mais au moins...
Du coup, on va être deux à commencer à y croire. Ça, faut bien commencer.
Non, mais au moins, les gens ont appris un mot en arabe.
Exactement.
Voilà, ça va.
Et ben, j'en plains trop bien, voilà. Et allez, deux mots de plus.
Bref. Donc là, on a le plus d'infos sur elle, c'est dans des textes et les œuvres d'art qui viennent d'Éthiopie. Et contrairement aux autres textes, la reine de Saba n'est pas utilisée pour parler de Salomon. Comme on le verra un tout petit peu plus tard, mais toute l'histoire est centrée sur elle. C'est elle le personnage principal. Et c'est pour ça que je préfère commencer par le folklore, parce que voilà, on commence par elle et pas par Salomon. Mais on fera des rapprochements avec les religions dans la foulée. Donc, dans ces textes, elle est appelée Makeda. Il y a plein de prénoms différents pour tout le monde, donc il va falloir s'accrocher.
Okay,
donc, Makeda. À l'époque, la ville de Marib, c'était une très très grande ville. Enfin, une très très grande ville. C'était une grande ville. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit très, mais c'était une grande ville. Et une ville de commerce. Donc, aujourd'hui, elle est vide. Il ne reste plus que des ruines de bâtiments à cause de toutes les guerres qu'il y a là-bas. Ces ruines ne sont utilisées que par des familles de bédouins qui sont de passage. Parce qu'ils traversent le désert. Donc, c'est un tout petit peu... Comme à l'époque, sauf que Marib, c'était un lieu de passage pour les échanges entre le Moyen-Orient et l'Afrique.
Mmh. Okay.
Ok. Donc c'était stratégique. Beaucoup d'histoires étaient racontées. Il y avait une très grande tradition orale, d'où le folklore. Mmh. Et parmi les histoires, il y avait celle concernant le roi Salomon, roi d'Israël, de son magnifique temple, de sa grande sagesse, du fait qu'il pouvait parler à des animaux, mais aussi contrôler des esprits.
Alors, vas-y, attends, t'as terminé.
Alors, c'est... Vous connaissez mon amour des dates. Mais là, j'étais en train de réfléchir et je me disais 2000 ans, enfin 10 000 ans, c'est vraiment loin.
Non, 10.
Tu ah, as dit que c'était 10 000 ans.
10e siècle.
Ça fait 1000 ans.
Ah, donc c'est 1000 ans.
Oui.
Ah, oui. Ah, bah non, c'était.
Peut-être que tu n'es pas en train de se lancer des cailloux et des pots de bêtes.
Mais non, mais j'étais là, mais 10 000 ans, c'est pas possible parce que les Juifs, ils en sont à l'an 5000 et des patates. Non. Donc j'étais là, c'est impossible.
Mais non, ça c'était la version d'avant.
Ça fait un quart d'heure que tu réfléchis sur
ça. Oui, je te jure que je bug.
Et en plus, je l'ai dit 1000 ans.
Pardon.
Par contre, si je peux me permettre, tu dis qu'il était impressionnant parce qu'il parlait aux animaux.
Ouais.
Alors, parler aux animaux, c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est le fait qu'ils te comprennent qui est vachement compliqué.
Ouais. Après,
moi aussi, je parle aux chiens, mais ils me répondent jamais.
Et il pouvait quand même les contrôler les esprits. Enfin,
ah, ok, plus balèze.
Ça, c'est plus rare.
Et donc, forcément, Saba, on en a entendu parler, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, elle décide d'aller le rencontrer pour qu'elle apprenne de son savoir.
Pas tout le monde qui fait ça.
Pour qu'elle apprenne de son savoir et de sa sagesse, et pour qu'elle puisse bâtir un grand empire elle-même.
Et finalement, love interest, comme dans toutes les mauvaises comédies américaines.
On fait une petite pause, quand même.
Ah.
Là, on a le premier rapprochement avec la religion. Il faut commencer par la Bible hébraïque, parce que comme tu dis, Camille, c'est la... La plus vieille, parce que c'est là où on a la première trace écrite la concernant. Donc la Bible hébraïque, c'est une série de livres religieux dont la Torah en fait partie.
C'est ça.
Jusque-là, tout va bien. Dans le passage 1, roi 10. En gros, on peut dire que c'est un peu le chapitre biographique du roi Salomon. C'est le fils du roi David. Et on parle donc de la reine de Saba, mais vers la fin de la vie de Salomon. Et il y a une histoire de business entre les deux royaumes.
Okay.
On peut lire. La reine du pays de Saba entendit parler de Salomon. Elle vint donc lui rendre visite pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante et avec des chameaux portant des parfums, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses.
J'ai cru qu'ils portaient des parfums, genre eux-mêmes, tu vois.
Parce qu'ils puaient.
C'est ça.
Non, c'est de l'or en grande quantité. Et chez les chrétiens, c'est dit qu'elle est partie avec des épices, du thé, des pierres précieuses et 3,5 tonnes d'or.
Okay.
3,5 tonnes d'or.
Ça fait lourd à tirer pour les ânes,
voilà,
ça.
Voilà, les chameaux.
Ah pardon,
et le truc, c'est que c'était pas pour les donner comme cadeau, mais c'était vraiment dans le but de faire du bise
pour,
avec.
Pour grignoter sur la route.
elle voulait s'acheter des petites bricoles sur les aires d'autoroute, des cartes postales.
Non, c'était vraiment le business qui était le thème principal.
C'était une femme d'affaires,
quoi. C'est ça. Elle avait surtout en sa possession des encens qu'on pouvait trouver que dans le sud de l'Arabie et vers la corne de l'Afrique.
Tu sais qu'il paraît qu'on faisait pas mal de boissons et de thé. Les fameux thés d'encens.
Et nulle part ailleurs.
Pardon.
Donc, les encens, ils étaient que dans cette partie-là du monde. Et donc, elle en avait le monopole. Les Israélites utilisaient beaucoup d'encens pour leurs prières. Et donc, il y avait vraiment moyen de faire ce bise avec lui. Dans l'islam, elle est appelée Bilkis. Elle est mentionnée dans le verset du Coran appelé les fourmis. Donc, Surat An-Naml, dans le verset 15 à 26.
Ah, c'est quelque chose.
Et dans le Coran, c'est Salomon qui est appelé Sulaiman dans le Coran. C'est donc
Sulaiman dans le...
Je trouve que c'est un peu plus chantant.
Ah,
c'est un peu plus classe.
Non, mais Sulaiman, je n'avais jamais tilté que c'était Salomon.
Ah bah, ok, voilà.
Okay bah, trop cool, je suis contente d'apprendre ça.
Donc Sulaiman entend parler de la reine de Saba et pas l'inverse, qui est la petite nuance. Et si je dois vous résumer ce petit verset. Donc Sulaiman, il était sorti avec sa troupe, il avait des guerriers, des djinns et des oiseaux.
Jusqu'à... Le mec, c'est Merlin l'Enchanteur, quoi.
Ah mais c'est vrai.
C'est le Hobbit avec quoi là. Non, mieux, comment elle s'appelle? Celle qui bouffe la pomme, là.
Blanche-Neige.
Blanche-Neige.
Ouais, celle qui bouffe la pomme. Les oiseaux. Ah, ok.
Donc, avec sa troupe, ils arrivent à la vallée des fourmis. Et petit rappel, Salomon pouvait parler aux animaux. Donc là, t'as une fourmi qui dit aux autres, « Belek, les gars, attention, rentrez tous chez vous, par peur que Sulaiman et son armée nous écrasent. »
Dans le texte, bien sûr.
Oui, oui. Pas mot pour mot, parce que c'était écrit en arabe.
Qui a entendu la fourmi dire ça pour pouvoir le...
Sulaiman, parce que du coup, ça l'a fait rire.
Ah, il entend les fourmis
oui,
également.
Oui, 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 ça l'a vraiment fait rire. Et là, il dit un truc à ses troupes.
Lol.
Et quand il regarde ses troupes, il remarque l'absence de la huppe. Et là, il dit...
La huppe.
Pierre.
Évidemment, encore absent, celui-là.
Non, bon...
Attends, c'est qui la huppe?
La huppe, c'est un oiseau.
Ah, d'accord. Mais fallait dire, je ne savais pas expert en oiseaux.
Mais en arabe, c'est le hodhoda.
Oui, non, mais très bien. Non, mais je
mais oui, c'est un oiseau. En vrai, donc, il ne dit pas Pierre, mais il dit « Est-elle parmi les absents? Je la châtirai sévèrement ou je l'égorgerai. »
Ça, c'est pas le meilleur moyen qu'elle revienne, ça, putain.
Ou bien, elle m'apportera un argument explicite. Mais la huppe, elle est revenue assez rapidement et elle lui dit un truc dans le genre « Chef, chef, chef j'ai trouvé une reine par là-bas, franchement, elle est super cool, super riche, elle est super tout ce que tu veux.
Elle est fraîche.
Par contre, elle croit pas en Allah mais au soleil. » Et là, Sulaiman, il répond « En gros, Starfoula, on va voir si tu dis la vérité. » Donc, il lui donne un message qu'il attache autour du cou et il dit
« Eh ben, identifie-toi, va porter le message à la reine. »
Je me suis amusé. Et il fait envoyer le message à Bilkis, qui lui disait en gros de venir le voir et se prosterner, ou sinon, il déclenchera une guerre, tout simplement.
Putain, Game of Thrones. Bend the knee.
C'est exactement ça.
Ah,
donc voilà, là, on fait une petite pause sur les religions. On revient au folklore arabe, cette fois. Donc, il est dit que la reine de Saba avait des jambes de chèvre.
Elle est super belle. Bon, par contre, elle a des jambes de chèvre.
Non, mais
elle les épile ou pas?
Rappelle-toi, c'est la fille. C'est la fille d'un homme et d'un djinn.
Ouais, mais
oui, mais le djinn, enfin oui, elle pourrait avoir une queue de sirène, quoi.
Et puis, ouais, mais après, c'est pas facile pour marcher. Non, ça aurait pu être un djinn. Ouais, non, autre chose, un djinn oiseau.
Mais écoute, c'est ce qui a écrit. Dans,
ah,
dans
mais d'un djinn, d'où les jambes? Djinn, jambes.
Et donc, quand elle arrive. Quand elle arrive au palais de Salomon, donc Salomon, il voulait vérifier qu'elle n'était pas un djinn, parce qu'elle avait les jambes. Donc Salomon lui fait passer un test. Il a étalé sur le sol plein de diamants. Et là, la reine de Saba, elle a cru, elle voit les diamants, elle croit que c'est de l'eau. Donc, elle soulève un tout petit peu sa robe pour enjamber l'eau, et du coup, elle montre ses jambes poilues. Et à l'époque, les poils, c'était pour les animaux, pour montrer leur côté sauvage. Les hommes, avec un grand H, on dit les hommes ou les hommes? Est-ce qu'on fait la liaison?
Je crois qu'on fait la liaison.
On fait la liaison? Ok.
Ouais, et puis c'est plus joli. Et puis, sinon,
les hommes. Mais les hommes, eux, ils étaient habillés pour cacher leurs poils. Donc le fait que dans les textes, on mentionne les gens poilus de la reine de Saba, c'est pour montrer la sauvagerie de cette femme. Mais pas forcément le côté péjoratif du terme.
Ok.
Donc la preuve,
Salomon tombe fou amoureux d'elle.
Oui, sauvage dans le sens où elle n'est pas éduquée.
C'est ça.
Ouais, plus genre la nature brute.
Ouais, c'est ouais. pas... You voilà. beast, you savage.
Alors qu'aujourd'hui, on voit des poils, on est en mode... Ah, barbare. Ça va, oh.
Alors que c'est juste des poils. Donc, on rebouche cette fois dans le judaïsme. Il y aura beaucoup de va-et-vient.
J'ai nausé.
La reine de Saba, qui est appelée Sheba, dans le judaïsme, elle décide par elle-même d'aller à Jérusalem pour rencontrer Salomon parce qu'elle en a beaucoup entendu parler. Les deux traits principaux qui ressortent de ce texte, c'est qu'elle est méga curieuse de sa sagesse. Elle va donc le tester avec des énigmes.
Ok, ça tu nous avais déjà dit, je crois, non ?
Une petite parenthèse, vous connaissez l'histoire de la sagesse de Salomon ?
Non.
Vous voulez que ça prenne...
Ah, oui. l'enfant qui est coupé en deux ?
Exactement, ouais. En gros, Salomon racontait qu'il était super sage et donc qu'il rendait la justice quand il y avait des désaccords entre les gens. Le mec avec ça à foutre de ses journées. Et un jour, deux femmes viennent le voir pour qu'elles puissent se mettre... parce qu'elles sont en désaccord et elles veulent la sagesse de Salomon pour être en accord. Et en gros, il y a un bébé et chacune des deux femmes prétend être la mère de l'enfant.
C'est mon okay. bébé.
Et il y en a une qui dit non mais tu me l'as volé et l'autre qui dit non c'est toi qui m'as volé l'enfant, etc. Et Salomon, il... merde. Et donc Salomon va appeler un de ses gardes et il va dire ok tu prends le bébé, tu le coupes en deux, chacune prend la moitié. Et... voilà, problème ah oui. réglé.
Et voilà la chaîne.
Voilà, la sagesse de Salomon. Et donc non, il y a une des deux femmes qui dit moi ça me bat. On coupe le bébé en deux. Et il y a l'autre qui dit non, je préfère qu'elle le garde plutôt qu'on le coupe en deux. Et Salomon va dire eh bien qu'on donne le bébé à celle qui a dit je préfère que l'autre le garde plutôt que l'enfant soit coupé en deux. C'est elle, la vraie mère.
Splat.
Voilà. Voilà, voilà.
Et vraiment, il y a de quoi en faire genre 4 saisons sur Netflix.
Donc, on en était où ? On était dans le judaïsme. Sheba a été curieuse, donc elle va le tester avec des énigmes. Donc, les énigmes, enfin, discuter avec des énigmes à l'époque, c'était normal. C'était comme si pour nous. À la semaine dernière, Elias, on s'est retrouvés, on a fait des pizzas, on a pris des énigmes. Et puis, non, on n'a pas fait d'énigmes, mais c'est l'équivalent des énigmes de l'époque. Et Salomon, il adorait ça.
Hein? J'imagine l'enfer, tu vois tes potes, qu'est-ce qu'il y a quatre pattes ? Oh, ça va !
Moi, je vois le Hobbit directement, quoi. J'ai la scène du Hobbit.
Qu'est-ce qui est petit et qui sent le marron ?
La bite d'un canard.
Non,
ouais, ouais, bref, du coup, Salomon, il adorait ça et il répond à toutes les questions de Sheba. Et elle est épatée. Elle est épatée par sa sagesse. Le deuxième trait, c'est que c'est une reine très très riche. Et quand elle va visiter Salomon, elle est quand même impressionnée par la grandeur de son palais et de celui qu'il avait construit pour Dieu. Elle dit qu'en arrivant. Qu'avant d'arriver à Jérusalem, elle ne croyait pas du tout à toutes les histoires qu'on lui racontait. Mais comme elle a été impressionnée, elle lui donne des parfums, des épices, des pierres précieuses et les fameux 3,5 tonnes d'or.
Elle lui donne tout, quoi.
Elle lui donne tout.
Ça me fait plaisir.
Ouais, mais je crois que personne n'a jamais fait ça, mais jusqu'aujourd'hui, personne oui. n'a jamais fait ça, 3,5 tonnes d'or. Et j'ai fait un calcul, j'ai pris le prix de l'or en 2020, 54 000 € par kilo. Mmh. 3,5 tonnes, ça revient à 192 millions d'euros.
Pas mal.
Dites-vous que c'est plus cher que le montant du transfert de Mbappé au PSG qui est à 180 millions.
Attends, mais ça veut dire que la meuf, elle aurait pu lui offrir Mbappé, elle a préféré lui offrir de l'or.
C'est ça.
Ah, bon,
franchement.
Ouais. Il a dû être déçu, Salomon.
Ah.
Et donc, tout ça, toute cette histoire raconte, enfin, c'est en gros, sa grandeur montre la grandeur du roi Salomon.
Oui. Okay.
Dans le livre d'Esther, elle ne lui donne pas 3,5 tonnes d'or. Faut pas abuser non plus.
De cachouille à Mars.
Non. À la place, elle lui envoie tous les bateaux de la mer chargés de cadeaux avec 6000 jeunes, tous nés à la même heure et habillés de vêtements pourpres.
Ça n'a aucun sens.
Ah non, moi je trouve que c'est beaucoup plus crédible.
Je trouve que ça pue l'erreur de traduction, tu vois. 6000 jeunes habillés pareil.
Mais surtout le fait qu'ils sont en vêtements pourpres, moi je trouve, on dirait... Vous avez vu Wild Wild Country ?
Non.
Oui, si, si, oui.
Bagwan,
oui.
Il a une secte où ils sont tous habillés en pourpre, du coup j'imaginais ça.
Mais désolé encore, est-ce que c'est pas, tu sais, peut-être parce que la teinture pour teindre les vêtements pourpres coûtait une blinde et donc c'est pour montrer qu'elle était pétée de thunes. À mon avis, c'est lié à un truc comme ça.
Bah, ouais. C'est possible, mais moi, ce que je trouve le plus ouf, c'est genre 6000 jeunes nés à la même heure.
À la même heure.
Genre, ouais. Les meufs, elles devaient pousser, mais c'était réglé. Elles
poussent maintenant. Allez, on est synchro. Il y a le cadeau pour le roi Salomon.
Ah, on a passé. Bon, bah, faut attendre 24 heures là maintenant. Désolé, mais.
Enfin, bref. Donc, la reine de Saba est très souvent représentée dans des peintures, mais quasiment à chaque fois, ça concerne son voyage à Jérusalem
et sa richesse. Donc c'est surtout pour souligner la grandeur du Rosalement encore une fois, parce que c'est vrai qu'elle est riche. Je ne me remets toujours pas des 3,5 tonnes d'or, ni des 6000 jeunes en pourpre, mais vu qu'elle est impressionnée par la richesse de Salomon, ça veut dire que ce dernier était encore plus riche. Et idem pour la musique. Une petite parenthèse, en faisant mes recherches, j'ai vu que Handel a fait une œuvre lyrique sur Salomon en 3 actes. Et je vais sûrement en faire un petit sujet musical. J'ai envie de dire prochainement, mais j'ai pas envie de...
Donc je vais le faire maintenant.
Non mais voilà, j'ai fait mon petit placement de produit. Et le 3e acte, justement, parle de la rencontre entre Salomon et la reine de Saba. On entend un petit texte. C'est beau.
C'est baroque. C'est très Guilleret.
Ouais, j'ai écouté une...
Hicham, c'est beau. Moi, c'est très Guilleret. Qui... C'est baroque. C'est ce que je te dis du début à la fin, voilà.
Pardon.
Bon, allez, on revient. Je vais refaire un tout petit résumé rapide. Donc, reine de Saba, Jérusalem, Skip roi it. Salomon. Test pour vérifier que c'est pas un djinn. Il tombe fou amoureux d'elle. Et du coup, au final...
Quand est-ce qu'il ken?
Ah.
On y arrive. Mais au final, elle est restée quand même 3 ans à Jérusalem.
Mais
d'après certains écrits, oui.
Dans d'autres, c'est 2h30.
Non, mais c'était pas un one night stand, tu vois. Donc c'est...
Bah, 3 ans, oui.
Oui, parce que je pense qu'elle a mis déjà 3 mois pour y venir. Donc...
non, je crois que c'est une semaine. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, normalement, le trajet dure une semaine et elle a réussi à le faire en 4 jours. Un truc comme ça.
Elle a pris l'autoroute.
Normalement, ça dure une semaine et elle a mis à peine 7 jours. Vraiment.
Donc, elle est restée 3 ans et Salomon avait la réputation d'être un coureur de jupons. Il avait beaucoup de femmes.
Étonnant.
Et quand je dis beaucoup de femmes, c'est beaucoup. D'après les textes, il avait 700 femmes de rang princier.
Mais qu'est-ce qu'il en fait ?
C'est pas fini. C'est pas fini. Et 300 épouses de second rang.
Mais qu'est-ce qu'il en fait ?
Et puis déjà Jean-Michel Bâtard de dire « Alors toi, t'es de second rang. »
Ouais, c'est ça.
Mais non, mais ça veut dire que du coup, il avait 1000 femmes. Arrondissons.
Oui,
arrondissons.
Oui, non, mais c'est ça.
Donc ça veut dire
on n'arrondit pas, 700 plus 300, ça fait 1000.
Voilà. Oui. Mais du coup.
T'as chacun son domaine. Baroque, ça fait 1000. C'est chacun
mais
sa spécialité.
Coup, si il a son devoir conjugal de façon équitable, t'as une nana, enfin une épouse, elle va.
Un aller-retour par seconde, quoi, par nana.
Mais non, mais c'est même pas ça, c'est qu'elle va coucher avec son mari si c'est en
tous
soir,
les
tous les deux putains
plus
d'années, quoi.
Et oui.
Eh bien, ouais,
c'est romantique, qu'est-ce que tu veux
même, attends,
ouais, tous les 3 ans même.
Et puis, non,
quasiment, non
bon, un peu plus de 2 ans, mais surtout, ça veut dire que lui, ça va être tous les soirs.
Ouais, par contre, oui, il a pas de repos.
Un mec, il doit
pas de dimanche, pas de vendredi, pas de Shabbat, rien.
Ah, oh, putain, j'avais oublié ça, ouais.
C'est bon, vous avez fini votre débat sur le nombre de femmes.
La bistiquette.
Donc, on pense qu'il aimait tellement Saba que Salomon lui tend un piège pour coucher avec elle.
Attends. Il l'aimait tellement qu'il lui tend un piège.
Oui, mais parce qu'en gros...
Il avait tellement envie de la pécho.
Voilà, il voulait... soyons clairs, il voulait la ken.
Voilà.
Mais elle le voulait pas.
Voilà, donc là, le consentement déjà, tintin. Voilà. Ah,
donc, il lui propose de dormir dans son palais. Au début...
Tu veux dormir à la maison?
Au début, elle refuse. Parce que...
Non, j'ai pris une petite chambre à l'Ibis Budget.
Non, c'est même pas ça, elle avait peur de se faire voler. Voler, pas violer, voler.
3 oui, mais... tonnes d'or, ça se prend pas comme ça.
Hein. Puis, ouais, mais bon, quand même.
Puis, genre, quand t'hésites à aller dormir chez un mec parce que t'as peur de te faire voler, vraiment, ça sent pas le bon plan. Hein. Pas bon.
Mais là, t'as Salomon qui lui dit: non, mais t'inquiète pas, je prendrai rien si toi tu ne prends rien.
Tu sais, déjà, ça commence sur de la double menace.
Non, bah non, c'est pas une menace. C'est, tu prends rien, je prends rien.
Je prendrai rien si.
Ouais.
Comme si je te frapperais pas si tu me frapperas pas.
Mais en tout cas, elle a dit banco.
Ok.
Elle a dit banco.
On voit la caravane.
Ouais. Et là, le petit filou, qu'est-ce qu'il fait? Il avait servi un repas super salé à Makeda. Ce qui fait que, en plein milieu de la nuit, elle se réveille avec une soif terrible.
Et du coup, elle a volé de l'eau.
Et là, elle se réveille et elle voit Salomon. Déjà, tu sais, le bas, tu te lèves, t'as soif, tu vois Salomon en face de toi.
Tout nu avec une grappe de raisin.
J'ai pas ces détails-là. En tout cas, il voit qu'elle a soif. Il lui dit: je ne te prendrai rien si tu ne prends rien. Donc, en gros, si tu veux prendre mon eau, va falloir baiser.
Oh gros.
Oh l'enfoiré.
Surtout que le gros sac, genre, il lui fait à bouffer, mais ah non, mais tu sais, c'est deux menus séparés. C'est, ça, c'est juste la bouffe, et si tu veux un verre d'eau.
Mais oh, j'avoue.
Gros ouais. sac.
Gros sac.
Petit spoil, elle se retrouve enceinte.
Ah ouais, donc elle avait vraiment soif.
Mais. Elle reste vierge dans la mythologie éthiopienne.
Alors une vraiment, petite... je vais pas commencer à juger parce qu'il y en a eu d'autres comme ça.
Ouais, non, mais c'est une petite référence à Marie, justement.
Ah.
En tout cas, 9 mois plus tard, elle a un fils.
De Salomon, du coup.
Qui s'appelle Ménélique, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Salomon.
Ok,
sauf d'accord. que Ménélique est black. Et Ménélique a été promis de récupérer les terres d'Israël et d'Éthiopie. Mmh. La dernière trace qu'on ait de Sheba, dans tous les textes quasiment, c'est lorsque son fils, Ménélique, donc, il revient de Jérusalem avec l'Arche d'Alliance. Donc c'est un coffre qui contiendrait les 10 commandements donnés à Moïse. Et il a bâti une nouvelle dynastie en Éthiopie. C'est les descendants de...
Ménélique.
De... Haïlé Sélassié.
Ah, putain. Ah, mais c'est pour ça. Donc, mais ça veut voilà. dire que Haïlé Sélassié est un descendant de la reine de Saba. Et donc,
exactement.
Et donc de Salomon, et donc c'est... Oh, ok.
Ouais,
c'est
oui.
Donc, pour rappel, Haïlé Sélassié, c'est dans le culte rastafariste, right. le Rastafari, c'est l'incarnation de Dieu sur Terre. C'est le roi noir couronné en ouais. Afrique. Et... Voilà. Oh putain, c'est ouf, j'avais oublié ouais. ça. Fort bien.
Mais en fait, c'est justement...
Ah, donc c'est, il a pas été choisi par hasard, quoi. C'est vraiment une prophétie qui ouais. s'est bien mise.
Mm-hmm. Bref, après cette histoire, la reine de Saba, elle disparaît des textes, tout simplement. La ville de Marie.
Des textes, pas des steaks.
C'est juste la pauvre meuf qui a voulu un verre d'eau. Et
c'est ça.
En plus, elle a été. La meuf, elle est venue. T'imagines, elle lui a filé 3 tonnes 5 d'or.
Non, ça dépend. Il y a des textes où c'était pour faire du bise, il y a des textes où c'est tiens, un cadeau frérot.
Oui, mais est-ce que dans tous les textes.
Il la viole.
Elle se fait. Ouais, il la viole.
Parce que bon, il n'était pas obligé.
Je ne sais pas. Non, parce okay. que dans l'islam, on ne parle pas du tout de relations.
Intimes entre eux.
Non.
Ouais.
Très bien. Ouais, bah en tout cas, non. Pas bien. Ne pas refaire à la maison.
Ouais, du coup.
Ne salez pas trop vos repas quand vous avez des invités.
Elle disparaît des textes. La ville de Marib a quand même continué de vivre pendant 1500 ans. C'est pas rien, donc jusqu'au 6e siècle. La fin de cette civilisation coïncide avec la montée du christianisme. Avant, on brûlait les corps, donc on utilisait beaucoup d'encens. Avec le christianisme, on enterre, donc plus besoin d'encens.
Oh.
Donc sa valeur chute. Et Marib et la vie qui l'entoure.
Ça se trouve, Jésus, il a juste fait un placement commercial de ouf. Tu sais, il vendait des pelles. Il y a un mec à côté qui vendait de l'encens. Il fait « Oh, il me saoule, lui, là. Et hop, on enterre maintenant. »
J'ai deux bouts de bois. Qu'est-ce que j'en fais? Ok. Donc, comme je l'ai dit au début, la ville est complètement vide aujourd'hui. Mais il y a un tombeau enfoui sous des tonnes de sable du désert à Mahram Bilkis. Donc c'est situé au sud de Marib. Mmh. Il y a un temple qui a été découvert par un Américain en 1952 avec l'aide de 160 bédouins pour justement trouver cette structure qui n'a pas été touchée pendant des millénaires. Il trouve plein de preuves d'une ancienne civilisation vieille de 3000 ans, les Sabéens, et ce qu'ils ont réussi à trouver montre que ce temple était destiné à un dieu de la fertilité, El Maka. Et vu que dans la vieille tradition arabe, la reine de Saba est souvent rapprochée à un culte de fertilité. Les chercheurs étaient quasiment sûrs de trouver des preuves sur la reine de Saba là-bas.
Donc, elle aurait, enfin, une personne aurait existé correspondant à cette mythologie.
Exactement.
Oh, trop bien.
Mais le problème, c'est qu'une des nombreuses guerres civiles a éclaté à cette période-là. Mmh. Donc, les chercheurs qui étaient américains ont décidé de se barrer parce que c'était trop dangereux. Et comme le montre cet extrait des infos passées à la radio le 29 septembre 1962, c'était la Hesse.
Nous allons voir maintenant assez rapidement la politique étrangère. Les dernières heures n'ont pas apporté de faits très très saillants, il faut bien le dire, Robert West. Toutefois, il faut tout de même reparler un peu du Yémen.
Au Yémen, la révolution semble s'être définitivement installée. 10 personnalités de l'ancien régime, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Ben Ibrahim, ont été exécutées hier. Rappelons que le mouvement a renversé la monarchie, assassiné le prince régnant et établi la république.
C'était la Hesse.
C'était la grosse Hesse.
Alors, on note la façon dont le journaliste a dit « Une nouvelle étrangère ouais. !» N'est-ce pas? C'est vous, calme-toi. Je...
1962, quand même. Hein,
on a le droit de parler du Yémen, quand même. Oui, bah, enfin, vas-y. Tu...
Donc, le site n'a pas été touché pendant plusieurs décennies. Il a même été recouvert en grande partie par le sable du désert. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus.
Ah, mais c'est-à-dire que le site est toujours...
Le pays est toujours en guerre. Donc aujourd'hui, c'est avec l'Arabie Saoudite. Et du coup, très peu de fouilles sont autorisées. Mais il y a quand même quelques petites fouilles par-ci, par-là. Et le peu de fouilles qui ont été autorisées ces 20 dernières années montrent, grâce aux nouvelles technologies, surtout avec les outils de sondage et tout ça, la grandeur du temple. Donc ça a l'air vraiment
trop
immense.
Bien.
C'est génial.
Et qui sait, peut-être qu'un jour, dans le monde d'après, les tensions s'apaiseront et on saura beaucoup plus sur la reine de Saba. Inch'Allah.
Oh, quelle belle
trop
conclusion.
Passionnant, ouais.
Trop ouf.
Ouais.
Ouais, je me suis vraiment éclaté. C'était super intéressant de fouiller à droite.
J'étais brillant, je trouve.
Non, franchement, c'est... Faut se dire aussi que j'ai eu 2 mois pour le faire, parce que c'était le sujet que je devais faire pendant le confinement, qui au final n'est jamais sorti.
Le mélange entre historique et foi, enfin les mélanges sont ouais. Souvent super intéressants de voir comment c'est venu, etc.
Et puis Astérix, et tout ça.
Ah, c'est vraiment trop cool. Très chouette. Et j'aime de plus en plus ta façon de compter ces faits. Elle fait très pro. Genre.
Cool.
Saviez-vous qu'en 1917, elle venait d'enfiler un pantalon? C'est ce qu'on appelait un jean. Pardon. T'as bien vu toutes nos interruptions?
Non, ça m'avait... Non, je vais
si,
pas le dire.
Tu l'as déjà dit dans le live, ça t'avait manqué.
Ça m'a manqué.
Non, en tout cas, c'était vraiment trop cool.
Cool,
oui,
merci.
Oui, totalement.
Content que ça vous ait plu. Et carrément. J'espère que vous aussi, les auditeurs, ça vous ait plu.
Oui, pareil, voilà, auditeurs, auditrices, on va arriver malheureusement à la fin de cet épisode, mais c'était vraiment un sincère kiff de retrouver le studio avec vous.
Et
par contre,
là,
il fait déjà chaud, ça.
Oui.
Là.
Ouf.
Je pense on va se revoir très vite, parce que sauf on va continuer, enfin on va reprendre notre rythme d'enregistrement, sauf si Edouard Philippe nous dit des trucs incroyables demain, mais
je touche la poutre, voilà. Enfin une vraie poutre. Donc non, donc. Non, mais elle est passée tranquille. Ouais, donc vraiment très très cool, très chouette. On va continuer, on va commencer à recontacter nos chers invités pour prévoir des futurs épisodes, et puis amener des nouvelles têtes quand même, même si vous ne les voyez pas. Et puis, encore une fois, on va attendre des prochaines nouvelles en espérant pouvoir vous rencontrer, puis prendre un petit verre.
Ce serait drôlement chouette.
Ouais, en respectant cette petite distanciation. Et puis,
si vous pouvez... Des bisous de loin.
Ouais. Et si vous pouvez continuer à nous gâter en nous envoyant des messages, des petits likes, des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Si vous pouvez noter, pardon maman, sur l'application que vous utilisez, ça nous fait toujours plaisir. Alors récemment, on a dépassé les 530 notes sur Apple Podcast. Ouais, ça a changé de nom, mais c'est iTunes.
Ah, ça s'appelle... ah oui, c'est vrai que ça c'est iTunes et Morph.
Et ouais. Mais iTunes s'appelle Podcast, c'est pareil. Mais voilà, si vous pouvez nous noter dessus, ça nous fera grand plaisir.
Tellement.
En laissant un petit mot. Et sincèrement, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on se les échange toujours.
Oui,
et puis,
peu importe les mots.
Oui, mais récemment on a parlé d'un organe privé de Ichouchou qui était surprenant, le message bien évidemment, mais le message était surprenant. Sur ces belles paroles, on vous propose de nous retrouver très vite. Prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres.
Je
et puis voilà, des grands bisous.
Un
et ne faites pas l'hélicobite.
Et maintenant,
à bientôt.
Bisous.
Mais dis-tu nos conneries.
Je veux que je dise d'aller se faire enculer.
Guerre. Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.